Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h tout pile, en direct sur RMC. Comme tous les jours, de 18h à 20h, on est là dans Rotten sans flamme. Magnifique émission qui s'annonce, on va se régaler en ce jeudi après-midi, fin d'après-midi. Restez bien avec nous, 2 heures d'émission, restez dans votre voiture, ne rentrez pas chez vous. Et appelez vos amis, on sera encore plus nombreux. En tout cas, il y a une belle équipe et il y a des belles surprises aujourd'hui. On est avec Benoît Boutron, salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ah Benoît.
Ah ouais, ça va ouais. Super. J'ai hâte de faire cette émission avec vous.
Grande émission. Pourquoi ? Ah ouais. Parce qu'il y a de l'actu. Puis surtout, il y a l'avis de recherche.
Oh là là.
Avis de recherche avec monsieur Christophe Dugarry. Salut Christophe.
Salut Dugas.
Salut Benoît, salut Jérôme. Voilà. Bonsoir à tous. Ah oui, je suis pas vraiment inquiet.
T'es pas inquiet quand même.
Je suis dans l'attente. Voilà.
S'il y avait un mot pour définir cet avis de recherche, ça serait électrique.
Ouais.
Ça va être électrique.
Électrique.
Ah, très bien.
Moi, je pense qu'il peut pardonner.
T'as retrouvé un mec à qui j'ai vu les chiffres.
Du gars, tu m'as dit, il y a une seule personne que je veux pas entendre, elle est pas au casting. Le reste, c'est bon. Donc, on a fait ce qu'on a voulu. Ben tu vois,
on va voir si tu peux pardonner. En tout cas, moi, c'est pas mon idée, du gars, je te le dis tout de suite.
on assumera.
On espère
qu'on va rester.
On est avec un qui s'est régalé hier avec la vie de recherche, c'est Jean-Michel Larquet. Salut Jean-Michel.
Ah oui, salut
Jean-Michel. C'était avant-hier, mais t'es carbo.
C'était avant-hier, c'est vrai.
Jérôme, je sais que t'es carbo. Bonjour à tous.
Je suis pas carbo, je suis en pleine forme.
Ça va, Jean-Mi?
Oui. Il voulait pas parler. Il voulait pas parler à Dédé.
Qui te dit que c'est lui?
tout à fait par hasard comme ça c'est qui m'a traversé l'esprit, je sais pas.
Dédé, c'est plus qu'un exploit, parce que déjà il fallait lui faire passer que c'était pour Dugas, et ensuite que c'était Dorothée sans flamme. Alors là, écoute,
ouais, d'accord, ouais.
On a lancé Dédé et deux herbilles, on n'a pas eu de réponse. C'est pas grave, on retentera la prochaine fois lors de la prochaine opération. Donc c'est à 19h, soyez bien là pour l'avis de recherche spéciale Christophe Dugarry.
RMC, avis de recherche.
Les retrouvailles en direct entre Dugas et plusieurs personnes qui ont marqué sa vie. S'il a marqué la vôtre, vous nous le dites au 3216 sur le numéro WhatsApp 06 12 424 424. N'hésitez pas, on adore les témoignages. On vous attend donc à partir de 19h pour parler de tout ça. Une légende du FC Nantes sera avec nous, messieurs, ce soir à 18h45 pour évoquer justement la situation des Canaries. Rénal Pedro sera là.
Je croyais que c'était.
Rénal Pedro sera là à 18h45. Ah bah oui, légende du FC Nantes, champion de France.
Rénal Pedro, c'est
incroyable.
32 matchs sans défaite.
Passeur décisif d'un des plus beaux buts du championnat.
Ouais, quel but
contre le PSG. Alors, ça me fait mal au cœur.
Allez voir ça sur internet, parce que là, c'est vraiment l'un des buts de l'histoire du championnat de France. Magnifique.
Incroyable.
Une touche de balle, bam bam bam.
Ah ouais, but de Patrice Loco.
Patrice Loco,
qu'on embrasse, Pat, il nous écoute souvent.
Et bien, on aura Rénal Pedro, donc à 18h45, supporter nantais. On vous attend également si vous voulez réagir à la triste actualité de votre club. À 18h30, un grand procès, là aussi. Le procès ce soir de Nasser Al-Relaifi, accusé de couler le foot français. On a 3 avis complètement différents. Ça va être très intéressant Jérôme, entre Dugas et entre Jean-Michel.
Là, j'ai hâte parce que là, je comprends pas.
Ah bah, tu vas voir. Écoute, tu auras des arguments de tous les côtés.
Clair,
tu verras, ce sera un grand moment à 18h30 ce soir. Et puis, vous le savez, le vendredi 13, c'est demain, vendredi 13 février, ce sera dans Rotten sans flamme que ça va se passer. Vous pourrez gagner jusqu'à 30 000 euros en cash net d'impôts et quelques jours après sur votre compte en banque. 30 000 euros du gars Jean-Michel Jérôme, rendez-vous compte. Magnifique cadeau que l'on vous offre. Il faut envoyer 13 par SMS au 732-16. 13 au 732-16 dès que vous entendrez cette alerte sonore. Soyez bien attentifs, ça peut tomber à tout moment dans Rotten sans flamme. C'est le moment de s'inscrire, Jérôme. C'est demain que ça va tomber, les 30 000 euros.
Je suis sûr que ça va tomber dans Rotten sans flamme.
Ah bah, c'est demain dans Rotten sans flamme, c'est prévu.
Je croyais que c'était dans toutes les émissions.
Non, là, il y a les alertes.
Mais les carbos.
Tu t'inscris.
Il
y a les alertes.
Tu connais fraises, lui aussi.
Ça vous a fait du mal, la vie de recherche, à chacun. Vous remettez pas de vos émotions.
Attends. On fait ça depuis le début de semaine, mais j'avais pas compris. Moi, je pensais que c'était un tirage. Donc là, c'est sûr, il y a 30 000 euros vendredi.
Oui.
Dans Rotten sans flamme.
Enfin, d'accord. Écoute, les gens s'inscrivent et là, l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante sera avec nous dans Rotten sans flamme demain pour le jeu des 30 000 euros. On peut gagner jusqu'à 30 000 euros.
Ah oui, non, Jérôme, c'est ça, donc toi, j'ai bien compris.
Jérôme, toi bien comprendre ce que dit. Non, toi bien comprendre
ah, t'avais
dit.
Compris, toi. Et moi, je pensais que c'était garanti 30 000. Non, il faut avoir de la chance.
C'est la somme maximale qu'on peut gagner. Mais c'est quand même une magnifique somme.
Mais je suis sûr que ça va tomber dans le.
Moi aussi, j'espère. Allez, 18h05 sur RMC, tout de suite.
On le fait, hein.
Ah, on le fait.
Non, les sens,
c'est bien. Sinon, tu combles la différence, on pourrait faire ça. Bon, on verra. On verra demain.
Ah ouais, ça.
Allez, tout de suite dans Rotten sans flamme. Réussir à l'OM, ça devient mission impossible.
Tout ça ne peut pas être vrai.
Vous n'avez jamais là, c'est ton doute.
Votre équipe a été trahie.
Championnat pour eux, dans pas longtemps, vous verrez qu'il y aurait deux personnes à notre place. Il faudra encore leur laisser du temps de travailler parce qu'à Marseille, t'as jamais le temps.
Tous vos secrets compromis.
Pour jouer à l'Olympique de Marseille, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas négociables, non? La personnalité, faire du vélodrome ta force.
Tout ce que vous avez été.
Allez, ah, basta, je coupe, allez, hop.
Tout ce que vous avez fait.
Allez, bande de l'escroc, allez.
A conduit à ça.
Au sein du club des dirigeants, on en veut aussi aux joueurs et on veut désormais les mettre aussi devant leurs responsabilités.
Nos vies sont la somme de nos choix.
Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire?
Reste Zerbi, vous en pensez quoi?
Ah ben qu'est-ce que ça me passe possible? C'est pas de sa faute à lui, hein.
Ta destinée, c'est ta raison d'être.
J'en dérange, mais vous allez voir.
Je n'ai pas de regrets. Tu ne devrais pas en avoir.
Longoria et Mehdi Benatia vont avoir leurs responsabilités. Tous les regards vont être braqués sur eux.
C'est morné dans l'œuf.
Manu, on comprend rien.
Morné dans l'œuf, c'était hier avec Manu Petit. Oui. Ça, c'est
hier.
Ah, c'était fou. Si vous avez loupé la vie de recherche de Manu Petit, allez revivre ce grand moment sur la chaîne podcast de Rotten sans flamme. Parlons donc de ce fameux contexte marseillais qui est régulièrement cité depuis le départ acté de Roberto De Zerbi, ce club très populaire, la ferveur incroyable dans la ville et partout en France, des attentes très élevées de la part des supporters qui rêvent de retrouver la gloire du passé, et cette pression médiatique aussi à laquelle nous participons régulièrement avec Rotten sans flamme et avec les émissions d'RMC. L'OM n'a plus remporté de trophée depuis 13 ans, vit dans l'ombre du PSG champion d'Europe qui marche sur le championnat de France depuis l'arrivée des dirigeants qataris en 2012. Et malgré tout, on rappelle aussi que Marseille possède, Dugal dit souvent, le deuxième budget de Ligue 1, 260 millions d'euros. C'est loin derrière Paris et c'est 850 millions, mais c'est loin devant Monaco qui est troisième avec 140 millions. Des Marseillais qui vont accueillir un septième entraîneur dans quelques jours. Septième entraîneur sous l'ère Longoria qui est arrivé en 2021. Je vous rappelle juste l'info RMC Sport d'hier, signé Florent Germain et Fabrice Hawkins. Mehdi Benatia, directeur sportif, avait lui aussi proposé sa démission en solidarité avec De Zerbi, démission qui a été immédiatement refusée. C'est la une de Rotten sans flamme, Jérôme. Le contexte marseillais rend-il la mission impossible? 32-16 pour participer avec nous.
Alors, le contexte, il rend la mission très compliquée. Le constat, c'est que sur les dernières années, et pas que sur les 2-3 dernières années, hein, ça fait un bout de temps que ça dure, un entraîneur qui s'inscrit dans la durée à l'OM, bah, il y en a quasiment pas, en fait. Et tu t'aperçois que ceux qui arrivent à survivre, parce qu'on parle de survivre pendant 2 ans, voire 3 saisons, c'est vraiment l'extrême, là. On est au bout du rouleau quand on parle de 3 saisons de suite. C'est parce que ces entraîneurs-là, la première année, ils ont eu des résultats. Soit ils ont gagné un trophée, alors ça fuit à l'Olympique de Marseille depuis quasiment 15 ans maintenant.
13 ans.
C'était Didier Deschamps. Mmh. Et on se souvient comment ça s'est terminé avec Didier, très mal. Et pourtant, il avait gagné avant le championnat et après la coupe. L'autre qui a duré, c'est dernièrement
Rudy
Garcia, parce qu'il a fait finale de Coupe d'Europe et ça lui a donné du crédit. Et tout le monde était
2 ans et demi, ouais, Rudy Garcia.
Ouais, 2 ans et demi, mais ouais. parce que cette finale de Coupe d'Europe, si tu veux, l'a embellie, et il a surfé là-dessus. Après, il y a eu des du craquage sur les recrutements et même la communication, mais ça peu importe. Il est quand même resté plus de 2 ans, et c'est un exploit. Et puis après, dernièrement, le problème, c'est que t'as pris des entraîneurs qui sont alors je suis pas des psychopathes, mais ils sont cinglés, en fait. Ils sont cinglés, tout simplement.
Forte personnalité, quoi.
Tu prends Bielsa, professeur de football, tu sais que d'un moment à un autre, il peut t'exploser.
Parti le soir de la première journée.
Exactement. Sampaoli, on peut pas dire que c'est un tendre. Il l'a vu, et même lui regrette d'être parti comme ça.
C'est vrai.
Tudor, même si il y a du bon et du moins bon, mais les mecs, ils ont quand même explosé, ils sont partis. Et puis après, t'as essayé de tenter Marcelino, qui lui est resté 3 mois. il était plus calme. Ils se sont dit peut-être que un mec un peu plus serein et moins exubérant. Ça va marcher. Non, ça marche pas. Donc en fait, moi je sais pas. Moi je partais du principe, et c'est pour ça que j'ai défendu l'année dernière De Zerbi, c'est que je trouve que un entraîneur qui ressemble un peu à cette ferveur et à ce côté un petit peu folklore de un peu beaucoup de cette ferveur si tu veux à Marseille, ouais. C'est-à-dire que tu t'enflammes vite au bout de deux victoires et tu tombes dans des grosses critiques après deux défaites. C'est vrai que moi j'ai toujours voulu voir un entraîneur passionné comme De Zerbi l'était, comme Sampaoli l'était, parce que ça ressemble un peu aux gens là-bas. Le problème, c'est que il faut mettre le pied sur le frein et que ces gens-là, passionnés de football, tout ce que tu veux, et pris dans cette ferveur, ils ne mettent pas le frein à main. Et donc, ils continuent et continuent. Et puis après, ils s'en prennent à tout le monde. Ils deviennent complètement cinglés, ouais, mais... où ils surveillent tout, la communication,
les comportements. C'est mission impossible. Quand c'est répétitif, Jérôme, quand c'est répétitif, que l'entraîneur soit expérimenté, pas expérimenté, qu'il soit calme, qu'il soit excité, qu'il soit ceci, qu'il soit cela, de toute façon, le résultat est le même. Donc, à un moment donné, il faut trouver la vraie raison, quel que soit le profil de l'entraîneur. Ça ne marche plus à l'Olympique de Marseille avec un budget, vous l'avez rappelé quand même, qui frôle les 260 millions. De temps en temps. Alors, de temps en temps, ils accrochent une participation en Ligue des Champions. Enfin, les participations en Ligue des Champions, y compris celle-ci, ça n'a pas été couronné d'un énorme succès. On a quand même parfois cherché les points sous une feuille de salade. Là, cette année, on se disait, bon, ils vont passer le premier tour, padaboum, nouvel échec. Donc, je pense que les deux présidents, honnêtement, après, je me trompe peut-être, mais les deux présidents qui ont véritablement réussi, si je mets l'exception d'Acier, là, au milieu, Jean-Claude Dacier avec Deschamps. Mais les deux présidents, alors l'un, vous le connaissez bien, l'autre, vous le connaissez moins. Le premier, il s'appelait Marcel Leclerc, c'était dans les années 70, quelque chose comme ça. Lui, il avait même viré un entraîneur un peu comme Boiré au Paris Saint-Germain, qui s'appelait Lucien Leduc, alors qu'il était en tête. Mais ça marchait. Mais c'était un président qui n'écoutait que lui. Et le second, alors lui, il n'écoutait que lui, et vraiment que lui, c'était tapis. Et les autres avaient beau parler, ça rentrait dans une oreille, ça sortait dans l'autre, et ça s'est pas très bien terminé non plus avec tapis.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Michel ? C'est mission impossible, alors ?
Ah ben pour le moment, je suis pas docteur en club qui ne réussit pas malgré des moyens conséquent. Je suis pas docteur en ça, moi. Je suis pas professeur de psychologie, mais il faut s'y pencher dessus quand même. Il faut se pencher là-dessus.
Je
pense quand même qu'il y a d'autres raisons uniquement que le terrain. Les recrutements, on te parle de stabilité. Hier, je vous écoutais, je crois que c'était vous. Il y a 160 mouvements.
Ouais, 154
mouvements.
Non, mais c'est fou.
Ouais. Et dans le même temps, on vous parle de stabilité. Et dans le même temps, on vous parle qu'il faut vendre le club. Non, mais qu'il faut le racheter.
Quand on te parle de stabilité, c'est pas vrai. Quand tu vois les mouvements, autant de mouvements, il n'y a pas de stabilité. Mais peut-être que c'est la demande aussi de McCourt, hein, parce que apparemment McCourt est content d'une chose, c'est du travail de Benatia, parce que à l'arrivée, entre les achats et les ventes, il est positif. Pour ça, c'est un exploit.
S'ils sont contents, bah,
apparemment,
parce que
il est content de ça.
Devient un commerce. Alors,
je précise que Franck McCourt sera au Vélodrome samedi pour le match de l'OM. Hein. Il sera présent. C'était prévu de longue date.
Bah, Duga, il peut nous en parler du contexte. Il a connu. C'est dur. Alors, Duga à Marseille.
Est-ce que c'est une fausse excuse?
C'est des fausses excuses, ça. Le contexte, bien évidemment qu'il est particulier, mais c'est aussi fantastique, c'est aussi magique de jouer au Vélodrome, de vivre des sensations. Moi, j'ai connu les deux. J'ai connu une saison extraordinaire et j'ai connu la saison beaucoup plus difficile où il y a eu les deux extrêmes. Mais Mais le problème, c'est qu'il faut mettre de la compétence. Quand tu parles de 150 transferts, c'est oui. qu'à un moment ou un autre, s'il y a 150 transferts, c'est qu'il y a au moins 100 erreurs. Enfin, à un moment ou un autre, ça, au bout d'un moment, amener de la compétence, arrêter d'amener des mecs qui émotionnellement sont fragiles. Excuse-moi, De Zerbi. Le soir du match, quand on a pris 5, il déclare ne plus comprendre son équipe. Le mec, c'est le soir, t'attends une réponse, t'attends une analyse, il en a pris 5 face à Paris, après s'être excusé face à Bruges. Je comprends pas mon équipe, mais mec, il fait tout à l'envers. Ils font tout à l'envers, les mecs. Au bout d'un moment, tu pouvais plus le garder, tu pouvais plus le conserver, c'était évident. Sûr. Après une phrase comme ça, un entraîneur, il est là pour t'apporter des réponses, il est pas là pour se poser des questions. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais dès le départ, De Zerbi s'est plombé. Les mecs, ils ont une gestion émotionnelle. Alors on me dit, c'est la passion. Ouais. La passion de quoi? La passion, ça empêche d'être parfois juste, d'être parfois raisonné. De Zerbi, au bout de trois mois, il t'annonçait que si c'était lui le problème, ouais, il partait. Imagine un entraîneur qui vient d'arriver ici. Imagine. Après, attends, laisse-moi finir, Jean-Michel. Après, il est arrivé, il y a eu le problème des arbitres. Souviens-toi, l'arbitre, il était hystérique, le mec. Il était un fada. Après, il s'en est pris à ses joueurs. Ça a été,
Greenwood.
Après, il s'en est pris à Pierre, à Paul, à Jacques. Après, il a réussi en fin d'année, il a réussi à accrocher la Ligue des Champions. T'avais l'impression qu'il avait gagné la Ligue des Champions. Ouais, c'est-à-dire vrai. Que le mec, quand ça va pas, tout est catastrophique. Et alors là, t'as l'impression qu'il va pleurer. Il te dit, moi, je suis un mec de la rue, je suis ci, je suis là. Non, il te raconte sa vie. On s'en fiche. Et quand tout va bien, le mec, il s'emballe. C'est-à-dire que, oh, un peu de mesure. Il y en a suffisamment de fada. Il y a pas besoin, mec. T'es là, t'es un entraîneur. T'es là pour avoir un objectif, quelque chose de clair et pas changer d'avis toutes les 10 minutes ou tous les 3 jours. Ouais, ça a été le cas avec Rabiot, ça a été le cas avec Mourinho, ça a été le cas avec Mopé. C'était tous ses fils. Ouais, il les a virés juste après, lui ou quelqu'un d'autre. Au bout d'un moment, le discours, il est inaudible. Parce qu'à force de vouloir prendre des entraîneurs à caractère, tu prends des entraîneurs qui sont, ils sont incompétents. Ils ont été où? Alors écoutez-moi bien. Les entraîneurs qui sont passés à Marseille, ils ont entraîné où après? Ils ont réussi. Où c'est qu'ils ont réussi?
Tudor, il avait rebondi à la Juve.
Il
a rebondi à la Juve, il est resté combien de temps?
Oui, ça s'est pas bien passé.
C'était un trampoline.
Du cas, quelqu'un l'a choisi de Zerbi.
Mais bien sûr que quelqu'un l'a
choisi. C'est Benatia qui l'a choisi.
Jean-Michel, plus que ça, c'est-à-dire que De Zerbi, on nous l'a présenté comme le centre du projet et comme un cadeau. Mais on peut pas arriver avec un peu plus d'humilité, un peu plus de discrétion. De Zerbi, souviens-toi quand il a dit, moi, Paris, je veux les accrocher parce que Paris, c'est la richesse, c'est le pouvoir. Moi, je suis un mec de la rue, je suis contre ça.
Je suis un ultra.
Mais qu'est-ce que tu fais quand tu es entraîné?
Il a dit, moi, j'aime pas le pouvoir.
Il s'est pris.
Il a dit.
Ouais, il s'est pris pour eux, je sais pas pour qui il s'est pris. Mais à un moment ou un autre,
pour le Che Guevara, il y a un petit décalage entre Jean-Michel et Dugas, c'est pour ça qu'on a du mal à installer.
C'est pour ça qu'à un moment ou un autre, je veux juste finir, après je vous laisse parler. Le contexte, bien sûr qu'il est particulier, mais il est pas dur, il est particulier. Moi, j'ai connu un contexte difficile. La rigolade dans les tribunes, ça chahute un petit peu, mais il y a plus de problèmes. Ok, bon, mais dans la rue, parfois, c'est un peu les gens sont, ils viennent un peu te parler. Régulièrement un peu quand t'es en famille machin, mais c'est pareil, il y a cette passion. Tu préfères quoi? Tu préfères être dans un club où il se passe jamais rien?
Et pourquoi personne n'y arrive alors, du gars? Parce que c'est ça la question. Pourquoi personne n'y arrive jamais alors,
à vous écouter, l'OM a jamais rien gagné, ça a toujours été nul à l'OM,
ça fait 15 ans.
Ça commence à dater, parce qu'il y a le PSG, parce qu'il y a un modèle économique, il y a des personnes qui ne sont pas compétentes. Est-ce qu'on peut juste se poser ça, plutôt que de mettre ça sur le dos des supporters qui remplissent le stade match après match, guichet fermé depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'en sais plus tellement. Et on s'en compte, c'est fort de café ça quand même. C'est ni la faute de l'entraîneur, ni la faute des joueurs, ni la faute des dirigeants, ni la faute de l'actionnaire. Non, c'est la faute des supporters et de l'environnement. C'est terrible de dire un truc comme ça.
Là où t'as raison, c'est vrai qu'on parle souvent du contexte, du truc. On a joué au foot. Vaut mieux être dans une ville qui vit pour son équipe plutôt qu'une ville qui
c'est magnifique. Est...
Non, mais j'ai connu les deux, donc moi je le sais. Je suis bien placé pour le savoir. Mais c'est vrai que à Marseille, quand t'es un joueur, l'excitation, mais même les dirigeants, l'excitation ou entraîneur, l'excitation, c'est de faire grimper au rideau ces passionnés et cette ferveur là, et de leur montrer que bah il y a du répondant et que il y a de la stabilité et que c'est tout ce qu'on explique sur le football.
Et les discours sont changeants systématiquement,
ouais, c'est vrai,
ils changent
c'est
de discours, ils disent pas ce qu'ils font, ils font pas ce qu'ils disent, ils te parlent de stabilité, il y en a jamais, ça en devient ridicule quand on t'explique qu'il faut la stabilité, qu'on change de joueur.
Ouais, Jean-Michel,
tu le dis avec beaucoup de ferveur, mais ça se résume, tu l'as dit, compétence, un cap véritable et de la lucidité, voilà, et on a l'impression que tu le disais, chaque fois qu'il y avait un bon résultat, je les ai vus, c'est vrai que ils s'enflammaient pour des résultats qui étaient ce qu'ils étaient, mais qui ne t'apportaient rien d'autre
que trois points.
Et c'est vrai quand même que j'ai toujours en mémoire Jérôme les images du président dans les couloirs où les seul dans les couloirs de l'abbé Deschamps à
Auxerre,
lorsqu'il est seul, tu te dis ça relève pas loin de la
je suis
inquiet quand je vois quelqu'un se comporter comme ça, taper dans les portes alors qu'il est tout seul.
Il y a un problème de gestion émotionnelle, mais bien sûr,
c'est vrai, c'est vrai que Dugas et Jean-Michel, vous aviez été loin dans les critiques l'année dernière sur le comportement de Pablo Longoria à Auxerre, je me souviens très bien. Et moi, j'avais pris sa défense. J'avais dit, bon, ça peut arriver une fois et tout ça. Mais c'est vrai que maintenant, avec le recul, quand tu vois... quand tu vois tout ce qui s'est passé depuis... Bah, tu te dis que, en effet, ces gens-là, ils n'arrivent pas à contrôler leurs émotions. Et le problème, c'est que lui a pris du recul. Parce que Longoria, la vérité, c'est que tu l'entends beaucoup moins qu'avant.
C'est vrai.
Mais il a filé le témoin à Benatia, qui a lui aussi, et pourtant il connaît le contexte, mais dit, moi c'est là, je comprends pas qu'il ait explosé un petit peu comme ça en plein vol. Parce que dans l'enflammade, on parle de De Zerbi, ok, mais De Zerbi, moi je pense qu'il a été surcoté tout de suite, il est surcoté ce mec-là, et il s'est pris pour un cador alors qu'il est loin d'être un cador. Mais Mehdi, il a fait du bon boulot. Il a malheureusement été dans l'instabilité comme tous les autres, et ça, moi, ça m'a déçu qu'il soit autant dans l'instabilité. Mais la vérité, c'est que lui aussi, dans l'enflammade, il l'a été. Rappelle-toi le discours après la victoire contre Newcastle.
Oui.
Où Newcastle, t'as l'impression que c'était déjà qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions, qu'ils ont battu Newcastle. Que derrière, il commençait à régler ses comptes avec tous ceux qui critiquaient en disant je vous l'avais dit, qu'il y a une grande équipe. Je vous l'avais dit. Qu'il y a des grands joueurs. Et puis après, il se retourne sur les jeunes, et il dit les jeunes, écoutez pas les critiques, c'est pour faire mal au vestiaire.
Non, il a dit c'est l'avenir de l'OM, il y en a deux qui sont partis deux mois après. Bande de Bacola et bande de Robinho.
Notre équipe, elle est forte, on est fort.
C'est ça.
Mais alors, je voulais juste qu'on aborde un point de vue qu'on n'a pas encore abordé depuis le début de ce débat, c'est aussi le contexte médiatique. On va pas se mentir, on en fait partie intégrante parce que nous, on parle très régulièrement de l'OM dans Rotten Sans Flamme.
Comme du Paris Saint-Germain.
C'est vrai aussi qu'il faut dire qu'il y a une pression médiatique beaucoup plus forte sur Marseille que sur les autres clubs de Ligue 1.
Mais tu préfères quoi quand t'es joueur?
Non, mais alors, c'est une question que je vous pose. Est-ce que ça aussi, c'est pas dur à supporter? Parce que ça veut dire que toutes les paroles que tu prononces, elles sont décortiquées, tu vas analyser chaque mot qui a été prononcé. C'est pas le cas pour les autres clubs, tu vois.
Mais quand on parle de pression, dans les grands clubs, oui, c'est ça, ça part de là. La pression médiatique, c'est pas que la pression du terrain. La pression médiatique, c'est ça. C'est qu'il faut être exigeant.
Oui, mais c'est pas facile, Jérôme. C'est ça que
Mais je te dis pas que c'est facile, mais
en plus, on est une émission de radio. Alors certes, écoutez, mais on n'est qu'une émission de radio. Il n'y a pas des émissions de télé tous les soirs. Il y a pas de. Mais c'est rien ce qui se passe.
On n'est quand même pas comme à l'étranger, ça c'est sûr.
Mais d'accord, mais c'est rien. C'est pas grand chose. Il y a 10 fois pire en Italie, en Espagne, en Angleterre, avec des émissions. En veux-tu, en voilà. C'est rien du tout. Puis le mec, il veut pas écouter la radio, il coupe la radio. C'est comme sur les réseaux sociaux. Tu veux pas écouter les critiques des réseaux sociaux, mais tu t'enlèves les réseaux sociaux.
Exactement.
Quand même, si t'es pas capable d'entendre les critiques que tu subis à l'OM, mais porte pas le maillot. Tu sais dès le départ que ça va exister.
tu sais, du gars, là où tu disais dans le recrutement, avec le nombre d'arrivées, de départs, tu comprends plus rien, plus de 150 mouvements, t'imagines quand même, c'est là, 5 arrivées au mercato d'hiver, au mercato d'été, 13 arrivées, 15 départs. Non, mais franchement, à l'arrivée, quand tu prends autant de joueurs, quand t'en prends autant, tu sais que de toute façon, c'est une façon de dire, bah écoute, sur les 13, peut-être qu'il y en a un ou deux qui va réussir à s'adapter, et comme ça, au moins, c'est ma garantie, elle est là. Le problème, c'est que quand sur les 13, eh ben, t'en as 11 ou 12 qui arrivent pas à s'acclimater, parce que tout le contexte que tu viens de dire, la pression médiatique, mais moi, j'y crois pas à ça. Parce que moi, on a été dans des clubs. La pression médiatique. Pilote, mais Dugage, mais regarde, Dugage jouait à Marseille. Jean-Michel, je sais pas, je connais pas le contexte de l'époque à Saint-Étienne.
Nous, les journalistes de Paris, le seul club qui les suivait à mon époque,
c'était Saint-Étienne.
C'était Saint-Étienne. On n'en est pas mort, on l'a supporté sans aucun problème. Mais le symbole.
Mais sauf qu'il y a une vraie différence. C'est que toi, c'était un club qui gagnait. C'est ça la différence. C'est que le traitement médiatique par rapport au résultat de l'équipe.
Et on en revient à la compétence.
Il y a un écart.
Non, mais Benoît.
Oui.
Et il l'a dit. Ils l'ont dit, que ce soit Jérôme, que ce soit Dugas. Ils l'ont dit. On ne demande pas à Marseille d'être devant le Paris Saint-Germain à tout bout de champ. On demande à Marseille, avec son budget, d'être un club qui réussit normalement.
Mais oui,
c'est tout. On leur demande pas de décrocher la lune, Benoît. On demande à l'Olympique de Marseille de temps en temps d'être dans la roue du Paris Saint-Germain quelques années, puis à un moment donné quand tu joues contre eux y a 6 points en jeu, si tu perds les 6 points tu es plus dans la roue, mais au moins d'accrocher une Coupe de France.
Non, mais Jean-Michel, d'avoir dans ces clubs là et c'est pour répondre à Benoît, et tu disais à Jean-Michel, vous avez gagné avec Saint-Étienne, sauf que moi à Paris, nous, des fois, on gagnait pas. Et il y a une année où on a joué le maintien. Alors, je peux te dire que la pression, elle était comme ce qui représente aujourd'hui pour les joueurs à Marseille. C'était beaucoup de les critiques. Il fallait l'assumer. C'est pas facile. Attention, c'est pas facile. Mais tu te mets dans ta bulle. Ouais. Et c'est l'avantage du football, c'est que on est tous, et en plus dans une génération où c'était, je te dis, en termes de critiques, ça commençait à être un peu comme aujourd'hui. Tu vois, il y avait des émissions, on se faisait fracasse, et c'est pas grave. L'essentiel, c'est que quand la pression, tu la ressens quand tu rentres sur le terrain, parce que le contexte, la ferveur, les gens sont énervés parce qu'eux, ils ont envie de voir une équipe qui leur fait plaisir et qui leur ressemble. Donc quand elle n'est pas comme ça, et Jean-Michel te le disait, cette année, on demande pas à Marseille de battre Liverpool, on demande pas à Marseille de battre le Paris Saint-Germain, et pourtant ils l'ont fait.
On demande à Marseille d'avoir
tu la surestimes surtout.
Non, parce que vous mettez de côté toutes les reprises, réseaux sociaux, tout ce qui ressort.
Allô, c'est des joueurs de foot, c'est pas des mecs des joueurs de foot.
Mais tu tombes dessus forcément.
Arrête un peu, le jour ils vont aller.
Mais regarde la susceptibilité de Desarmi sur votre propos à chacun. Regardez comme il s'est susceptible par rapport à ce que vous disiez.
Je peux pas te laisser dire ça. C'est quand même pas les réseaux sociaux. C'est quand même pas les réseaux sociaux qui ont demandé à Desarmi de titulariser deux nouveaux joueurs, Loïneri et Timber, à 48 heures après qu'ils sont arrivés. C'est pas les réseaux sociaux qui m'ont demandé ça.
Je suis d'accord, mais ça fait partie du contexte dont on parle depuis 18 heures.
C'est à cause des réseaux sociaux qu'il y a eu le cas Rabiot qui t'a plombé le mois d'août.
Non, mais par contre, on a parlé 3 semaines sur les réseaux sociaux, partout sur RMC, dans tous les médias, bien sûr.
Mais la faute à qui?
Qui
a fait fuiter
les réseaux sociaux, ça intéresse qui? J'y suis pas, moi, sur les réseaux sociaux.
En plus.
Alors, qu'est-ce qu'on s'en fait?
Parce que ça vous intéresse pas, que ça touche pas la nouvelle génération.
Mais non,
ils ont qu'à s'en sortir. Si ça les touche, ils ont l'avantage de pouvoir.
Mais Benoît, là où tu te contredis, c'est que tu me dis la nouvelle génération. Ok, les gamins de 20 ans, 25 ans, ok. Mais Desherby, quel âge il a? Il a notre âge quasiment.
Mais c'est pas vrai.
Il a mon âge quasiment.
Tu sais comme moi.
Mais les réseaux sociaux, il est comme moi. Donc les réseaux sociaux, à mon avis, c'est quoi? Il les regarde et on lui rapporte. Et alors c'est grave parce que Dugarry, parce que Roten, parce que Larquet, ils l'ont dézingué. Et c'est grave pour faire ta composition d'équipe et pour dégager de la constance. Mais franchement, arrête tes bêtises.
C'est notre faute. Il a mis 33 compositions d'équipe.
Je vous ai juste dit que c'était un élément.
Et l'année dernière, pour finir deuxième, est-ce que les réseaux sociaux étaient un problème pour deux Zerbi?
Tout autant. Bah, on parlait moins de l'OM parce qu'il y avait moins de matchs pour l'OM.
Bah, voilà. Et là, il savait bomber le torse.
Stop. Je me fais crier dessus par le producteur. Donc on y va. C'est le moment. Eh oui, le moment pour tenter de gagner jusqu'à 30 000 euros. Eh oui, 30 000 euros en cash net d'impôt dans quelques jours sur votre compte en banque.
30 000, c'est demain.
Grâce à la roue RMC, vendredi 13. Vous envoyez 13 par SMS au 732-16. Allez. Normalement, c'est 5 minutes. On vous donne 10 minutes.
Allez, 10 minutes jusqu'à
18h39. Allez, 40 même. 40, on arrondit. 18h40 pour tenter de remporter 30 000 euros en cash demain dans Rotten sans flamme. Dans un instant, on parle de Nasser El Khelaifi, accusé de faire couler le foot français. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h34 sur RMC. On est là, on est bien dans Rotten sans flamme. On continue nos débats. Et là, un bon procès. Sur Nasser El Khelaifi, on est avec Christophe Dugarry, avec Jean-Michel Larquet, avec Benoît Boutron. Après, à 18h45, le Allo Jérôme.
Une légende du FC Nantes.
Ah bah oui,
Renal Pedro, on est ravis d'accueillir là. D'ailleurs. Ouais.
Mais là, on y va, on est un peu à la bourre. Allez, à cause de toi, Benoît. C'est allez, go.
RMC, Rotten sans flamme.
We're running out of time. Maybe somebody other than Nasser should talk. Nasser, you're being a bully.
John, stop talking. You don't understand anything. You are from, I don't know, Cabo, right. You coming, I don't
I'm
know
an
where.
Outsider.
And you talking to us.
Vincent,
Jean-Pierre.
Le procès de Rotten sans flamme.
Alors, vous le savez, il y a un conseil d'administration sous tension à la Ligue aujourd'hui. La menace de départ de Nicolas Taverneau, le DG de LFP Média. L'objet du conflit, c'est donc le fait que beIN Sport ait récupéré et acquis les droits de la Coupe du Monde 2026 aux dépens de Ligue 1 Plus, qui disposait d'un préaccord avec la FIFA. Le problème, c'est que Nicolas Taverneau regrette le manque de soutien et l'unité de la Ligue. Mais forcément, dans la Ligue, il y a le Paris Saint-Germain qui était représenté par le DG Victor Mellero, voilà, donc c'est lui qui représentait le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas directement Nasser El Khelaifi, mais l'ombre du président plane au-dessus de tout ça. Il a deux casquettes, celle de président du PSG et celle de président de beIN Media Group. La FIFA a apporté son soutien à Nasser El Khelaifi aujourd'hui en disant que les relations étaient longues et très bonnes avec beIN Sport. Ce n'est pas Nasser El Khelaifi qui gérait les dossiers directement. Et je vous indique juste que Philippe Diallo, le président de la Fédé, a également réagi en disant que c'était un coup dur pour Ligue 1 Plus, mais qu'il fallait passer à autre chose désormais. Le procès ce soir, Nasser El Khelaifi, accusé de faire couler le foot français. Le procureur, c'est monsieur Dugarry. Bonsoir.
Bonsoir.
On a deux avocats, Jérôme Rotten et Jean-Michel Larquet. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Et Charlie va rendre son verdict au 32-16. Salut Charlie.
Salut l'équipe. Salut à tous.
Salut Charlie.
Sois le bienvenu.
Salut.
Vas-y Dugas, tu peux y aller.
Écoute, c'est une position qui est pas facile à défendre, mais je vais essayer de le faire du mieux possible. Je pense pas que le foot français, avant de couler, il a eu besoin de Nasser, du président Nasser. Maintenant, je pense que le président Nasser tente un équilibre impossible entre son rôle de président du Paris Saint-Germain et son rôle de président de beIN Sport. Quand tout allait bien à une époque et que l'argent coulait à flot et que la stratégie de beIN était justement d'en donner le plus possible pour faire du bien au football, que ça retourne au Paris Saint-Germain qu'il y avait une stratégie qui était totalement différente et de dépenser beaucoup plus d'argent, voire parfois un petit peu en surestimant le prix de la Ligue 1, ça a changé. Tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Donc, ça se tend. Il y a de moins en moins d'argent. beIN a changé de stratégie, veut en donner de moins en moins. N'hésite pas à lancer des procédures contre la LFP et contre LFP Média. Je trouve qu'au bout d'un moment, ce n'est plus tenable. C'est-à-dire que tu ne peux pas être... Alors, je serai dans la position du président Nasser, j'aurais peut-être fait ce qu'il a fait aussi, hein. Il a deux casquettes qui sont extrêmement difficiles à combiner. Moi je pense qu'à un moment ou un autre il va falloir faire un choix pour lui, et tu ne peux pas être et président de beIN qui est en concurrence directe aujourd'hui avec LFP Média et avec la Ligue, c'est une réalité, et président du Paris Saint-Germain. Je vois pas comment on peut trouver un arrangement avec ces deux casquettes-là. Donc voilà, moi je trouve que je trouve qu'aujourd'hui, il faut faire un choix. Et la meilleure façon de faire un choix pour le président, s'il veut aider la Ligue 1 à s'en sortir et donner une chance à la Ligue 1, je pense même au président Labrune, voilà, qui est un peu l'agent double à la Ligue, qui est l'ami de Nasser à la Ligue. Voilà, je trouve qu'il y a trop d'entre-soi, il y a trop de copinage. Trop et au bout d'un moment, quand les intérêts ne sont plus communs, il faut faire des choix et prendre des décisions. Et je pense que la meilleure des décisions, ça serait que le président Nasser arrête de ce qu'il fait avec Bein. Voilà.
Maître Roten.
Bon, après, Monsieur Dugarry était un peu hors sud du moins, il a pas été virulent. Du moins, c'est le thème du débat, c'est bien Nasser Al-Khelaïfi fait tout pour tuer la Ligue 1. En effet.
Accusé de faire couler le foot français.
Voilà, ouais. Donc, moi, j'ai entendu des termes dernièrement où il veut tuer la Ligue 1. Donc, bon, juste un rappel des faits, et c'est factuel, c'est comme ça. Bein, cette année, a un match encore sur la Ligue 1. Il paye 80 millions un match. D'accord ? 80 millions. On est d'accord ? Et c'est un match cacahuète, hein, c'est pas l'affiche. Hein. Donc, déjà, pour quelqu'un qui veut tuer la Ligue 1, il donne 80 millions depuis pas mal d'années. En plus de ça, avec Bein, vu qu'il veut tuer la Ligue 1, depuis 2011, et moi je sais parce que j'étais joueur et on a été à l'ouverture de Bein, ils sont régulièrement sur les droits de la Ligue 1. D'accord, avec Canal, ils étaient sur les droits de la Ligue 1.
Non, mais
ils étaient sur les droits de la Ligue 1, donc ils ont mis beaucoup d'argent pendant plus de 10 ans. D'accord ? La Ligue 2, rassurez-moi, fait partie du football français.
Ouais.
D'accord ? Donc, qui c'est qui a les droits de la Ligue 2 ? C'est Bein. Personne n'en voulait. Ils ont donné 200 millions sur 5 ans. D'accord ? Pour quelqu'un qui veut la mort du football français et de la Ligue 1 ou de la Ligue 2, bah, il met quand même 200 millions sur la table. Alors que personne n'en voulait. Et l'équipe a essayé. Hein. Heureusement qu'ils se sont arrêtés parce que c'était catastrophique. Ça, c'est une petite parenthèse. Après, sur le projet Ligue 1 Plus. On reproche à Nasser, en effet, de faire tout contre la Ligue 1 Plus. Je pense que ça a été un de ceux qui s'est mis en avant en disant « On fait une connerie si on part et on crée une chaîne, ça s'est jamais vu ailleurs. » Pour les finances des clubs, alors il parlait pour tous les clubs, parce que le PSG, ils sont à l'abri financièrement, on est d'accord, avec la Coupe d'Europe et tout ça. Mais pour les finances de certains clubs, et on le voit actuellement, c'est la mort. C'est la mort de ces clubs-là, parce qu'il n'y aura aucune rentrée. Ce qui se passe cette année. Ce qui se passe en termes de revenus, en termes d'abonnés, ils sont bien en dessous de ce qu'ils avaient prévu. Donc, excuse-moi de dire que lui a toujours été contre ça. Ils ont décidé de la créer. Pas de problème. Il fait partie du package. Et ben, il va avec. Il regarde ce qui se passe. Mais il a le droit aussi de donner son avis et de critiquer. Et puis, l'autre chose aussi, parce que moi, ça me fait rire. Parce qu'on parle de tuer la Ligue 1 parce qu'il s'est mis sur les droits. Ils se sont mis sur les droits de la Coupe du Monde. Alors, je sais pas, on a tous la télé. Il y a eu des Coupes du Monde avant. Tous les droits ont toujours été sur Bein. Tous les droits ont toujours été sur Bein. Ouais. Sous prétexte qu'aujourd'hui, la Ligue 1 se met en avant pour, alors, attention, la Ligue 1 Plus, c'est pour les droits de la Ligue 1. On est d'accord. Donc, jamais, quand ils ont créé Ligue 1 Plus, ils se sont dit, oh là là,
Mais là, il s'est réveillé après eux, quand même.
Non, mais attends. Moi, je veux bien qu'on me dise, oui, la Ligue 1, tu te rends compte, Ligue 1 Plus, ils se sont mis sur les droits parce qu'il n'y avait personne. Et puis, De Taverneau, il a eu en plus le culot de dire, oui, il y a eu des accords avec la FIFA.
Les pré-accords.
Et puis, sauf que, les pré-accords, ils sont tombés à l'eau. La FIFA fait un communiqué aujourd'hui. Je vous envoie à lire le communiqué de la FIFA, qui a dit qu'il n'y avait jamais aucun accord.
C'est le propos du deuxième avocat.
Et donc, moi, je finis là-dessus sur le projet de la Ligue 1 Plus. Moi, c'est bien beau de nous expliquer que Ligue 1 Plus, qui est aujourd'hui un petit peu dans la mouise en termes d'abonnés, que d'un seul coup, ils se réveillent, ils se disent, on a besoin parce que là, deux mois sans match, c'est catastrophique pour les abonnés. Mais rassure-moi, Benoît, en début d'année, la Ligue 1, il le savait, Ligue 1 Plus, que pendant deux mois, il n'y avait pas à avoir de match.
Mais c'est pas pour ça que tu peux pas trouver de solution.
Ils t'ont pas vendu la Coupe du Monde. Attention, on va se mettre sur la Coupe du Monde.
Les Girondins de Bordeaux maintenant.
Les Girondins de Bordeaux. Donc, moi, je veux bien, mais arrêtez délit de sale gueule avec le président du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il a montré plus d'une fois qu'en effet, la Ligue 1, il la respectait, il mettait beaucoup d'argent.
Mais sa position, elle est plus viable. Tu as raison, Jérôme, mais sa position.
Oui, mais la position, Dieu sait, si j'ai beaucoup
estime pour le président de Taverneau. On n'a pas découvert du jour au lendemain les conflits d'intérêts entre Bein et le Paris Saint-Germain, avec la double casquette de El Khelaïfi. Tout se passait bien lorsqu'il envoyait la monnaie. Il n'y avait aucun problème. Aucun problème. Là, il y a des problèmes, et celui qui a rompu le lien, il s'appelle quand même... Qui est-ce qui a parlé d'agent double tout à l'heure, du gars?
Ouais, ouais. Eh ben oui, c'est la Brune. Ouais, ben
il s'appelle Vincent Labrune. Donc ben moi, oui. À un moment donné, que et puis quand tu as un vendeur qui n'est pas correct, je parle pas, je le traite pas de gougnafier, je le traite pas d'escroc. Je dis simplement que le vendeur, en l'occurrence c'est la FIFA, est incorrect. Elle demande à quelqu'un de remplir un dossier. Elle lui donne une deadline. Il remplit tous les critères, tous les paramètres, et puis que Bein se mette sur le marché, il tente le coup.
Bah c'est normal, c'est de la concurrence.
Il tente le coup, et comme en face d'eux, ils ont un vendeur qui est quelqu'un d'incorrect, et que entre le vendeur et l'acheteur, il y a quelqu'un qui joue un double jeu, tu l'as cité, moi... Bon. Si j'ai quelqu'un en face de moi, un vendeur qui est incorrect, qui me dit, monsieur Larquet, tout est ok, il n'y a pas de problème, et que derrière, il y en a un autre qui arrive, et qui est surenchéri.
Et qui met le double, tu vas où, toi?
Et que le vendeur
tu
est incorrect.
Tu prends le double ou,
je vais vous les donner, moi. Il y en a deux qui sont en train de tuer le football français. Oui, l'un s'appelle l'agent double, c'est Vincent Labrune, et l'autre, c'est quand même...
Il n'arrête pas de faire croire qu'il veut partir, mais il part jamais, celui-là.
Ouais, et l'autre, c'est quand même Gianni Infantino, qui va, sans scrupule, et malgré les communiqués, sans scrupule, au plus offrant, même si celui qui était le moins disant a fait les choses dans les règles.
Alors, Charlie, je suis désolé, on est très en retard. Qui remporte ce procès? Est-ce que c'est Dugas ou est-ce que c'est Jean-Michel et Jérôme?
Bah pour moi, c'est l'équipe Jean-Michel et Jérôme. Juste pour dire, c'est Jérôme avec son argument sur le fait que Bein ait mis plein de pognon sur la Ligue 2. Si c'est pas ça, sauver le foot français, c'est rien d'autre. Donc, quand tu fous autant de pognon sur la Ligue 2, c'est quand même que tu as un petit peu d'estime pour le foot français, parce qu'il n'y a pas de Ligue 1 sans Ligue 2 et vice versa.
Bah, c'était très clair. Merci Charlie. Victoire de Jérôme et Jean-Michel dans ce procès. Dans un instant, on parle de la situation du FC Nantes avec une légende du club, Reynald Pedros. À tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h49 sur RMC, on est là, on est bien dans Roten sans flamme. Le Allo Jérôme, à l'instant, va être un bon moment avec Reynald Pedros, une légende du FC Nantes. On est avec Christophe Dugarry, avec Jean-Michel Larquet et avec Benoît Boutron. Après 19h,
vous l'aurez. Avis de recherche spécial, Christophe Dugarry. Il a marqué votre vie, vous avez marqué la sienne. Venez nous le dire au 32-16. Les témoignages s'accumulent. Également sur le numéro WhatsApp 0612 424 424. Certaines personnalités sont calées. On a encore de la place. N'hésitez pas. Vous voulez réagir. Vous avez des souvenirs communs avec Christophe Dugarry. Venez nous le dire au 32-16. Mais tout de suite, parlons d'un club, un monument du foot français en péril.
RLC, Rotten sans flamme.
Là encore un ballon perdu et récupéré heureusement par Laurent Guyot. Un ballon donné en profondeur pour Pedros.
Oulala, les buts.
Et but de Pedros. Superbe but de Pedros.
Oh, quel beau but.
Qui a profité de ce contre pour Lomé, Victor Bayard, rien à dire, rien à faire, c'était remarquable.
Allô Jérôme.
Reynald Pedros, légende du FC Nantes, champion de France 95 en direct avec nous Jérôme.
Quel honneur, salut Reynald.
On l'a fait briller.
Les gars, franchement, légende, c'est pour ceux qui sont disparus, non?
Ouais.
Non, il y a des légendes vivantes, Reynald.
Bah, on t'entend plus.
Alors c'est pour ça, pour nous, t'as disparu.
Je bosse, moi.
Je plaisante.
Bon, on est ravis de t'accueillir, Reynald.
En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir dans Rotten sans flamme.
Et on voulait l'avis d'un joueur qui a marqué l'histoire de ce club pour parler de la situation actuelle. Nantes est avant-dernier de Ligue 1, 14 points, 3 victoires, 5 nuls, 13 défaites. C'est le pire bilan de l'histoire du club à ce stade. On s'en même des supporters résignés. Quand on est une légende du FC Nantes, bah alors là, ça te fait rire un peu, mais en tout cas, un joueur qui a marqué le club, bah comment on réagit? Est-ce que tu es triste de voir ce qui se passe dans ton club de cœur?
En fait, tu as dit le mot, tu as dit résigné. Je crois que moi, personnellement, je vais parler en mon nom, j'attends plus grand-chose de cette équipe et de ce club. Tous les ans, c'est un club qu'on attend ou que j'attends dans la partie de tableau. Alors, si aller en haut de la deuxième partie de tableau, je suis content. Mais voilà, la plupart du temps, c'est une année difficile, une année de où ils jouent le maintien, une année où il y a des problèmes avec les supporters et le président. Voilà, enfin, c'est ça devient un peu toujours la même chose.
Et comment tu l'expliques justement ça? Parce qu'il y a des moyens qui quand même qui sont mis par le président. Il a quand même mis beaucoup d'argent. Est-ce que c'est un problème tout simplement de compétences?
J'ai cru, je me trompe peut-être, mais j'ai cru voir qu'il y avait un budget de 50 millions. Un budget de 50 millions, je crois que c'est à peu près vers le 13e budget de. Il y a plus que ça?
Ouais, je pense, je vais te dire.
En tout cas, il n'y a pas un investissement sur le mercato d'été. Là, ils ont un peu réajusté cet hiver, mais il n'y avait pas
quand on réagit à la trêve, on fait jamais de très bonnes affaires. Je suis pas sûr qu'à la trêve on fasse de très bonnes affaires. On ajuste souvent son effectif, mais pour jouer le maintien, on prend des joueurs qui jouent pas dans d'autres clubs. Il y a Cabella qui est arrivé, c'est un joueur de qualité, mais faudrait-il encore qu'il y ait du monde autour de lui qui puisse le faire briller. Mais je suis pas sûr qu'on fasse toujours un très bon mercato à la trêve hivernale. Après, il y a le problème aussi de l'entraîneur. Le problème c'est que c'est un club qui change énormément d'entraîneurs. Il y a pas de continuité. C'est juste des coups. Quand Antoine Comboiré est arrivé à la rescousse du club, il a sauvé le club et puis il est resté, un an et demi ou deux ans de plus, et puis il est reparti, puis il est revenu. Enfin bon, j'ai l'impression que c'est un club qui cherche à faire des coups avec les entraîneurs, ou du moins qui mettent pas l'entraîneur à sa juste valeur. Un entraîneur, c'est très important. C'est pas seulement
quelque chose. Surtout à Nantes.
Rénal, puisque moi j'ai l'impression que ce club a perdu son âme. Tu parlais des entraîneurs. Moi j'ai connu une époque où il y avait Arribas, puis Ciodo, puis Rénal. De Noël, tu étais avec Rénal, toi, non?
Moi j'étais à la formation Ciodo avec Rénal et après j'étais avec Coco.
Voilà. Donc, ces entraîneurs duraient 7, 8 ans, 10 ans, 15 ans. Et puis aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Et à l'époque également, il y avait quand même une formation qui était la plus performante de France. Ils ont tout perdu. Et la stabilité.
Ça veut dire qu'il faut faire quoi, sa capitaine? Parce que ça, c'est un constat. Mais après, ça va finir comment? Ça va finir comme Bordeaux? C'est-à-dire, c'est un Américain qui va arriver, qui va racheter le club. Ça va être encore pire. Hein? Aujourd'hui, la solution à Nantes, c'est quoi? C'est de faire partir le président.
Lopez,
c'est quoi?
Il va tout te sauver, Lopez.
C'est vrai. Quelle est la solution? Est-ce que c'est vraiment Valdemar Quitta le problème? Est-ce qu'on est sûr que sans Quitta, ça marcherait mieux? Rénal, qu'est-ce que t'en penses?
Je suis pas sûr, mais après Jean-Michel, tu parles d'une époque qui n'existe plus. La formation. La formation, c'est quoi? La formation, c'est du temps. On peut prendre le cas de notre génération. Avant d'éclore, avant de venir en pro, on était un peu parachutés parce que le club était en grande difficulté. Mais je veux dire, toutes ces années qu'on a passées à la formation. Quand on est arrivé nous, le club n'avait pas la certitude que ça marche. Par le plus grand des bonheurs, c'est vrai que ça a fonctionné et très bien fonctionné. Mais la formation, c'est du temps. Il faut laisser le temps aux entraîneurs. Est-ce qu'aujourd'hui un entraîneur a vraiment le temps de travailler avec des jeunes?
La preuve que non, parce que le projet était jeune avec Castro.
Ouais, Castro.
Et puis au bout de 4 mois, on l'a dégagé.
Voilà. Donc il y a pas de projet à long terme. Il y a un projet à court terme de résultats. Bon, le résultat c'est important aujourd'hui, hein. Ça prend le dessus sur pas mal de choses. Mais il y a un projet à court terme et on se dit, si ça va pas, on changera l'entraîneur, c'est pas grave. Et puis on verra bien avec le prochain. Il n'y a pas de continuité. Je pense qu'à Nantes, il y a des bons jeunes. Je pense que la formation, elle a changé parce que les jeunes ont évolué aussi. C'est plus les mêmes qualités, c'est plus les mêmes mentalités. Mais je pense que là, il y a toujours de la formation à Nantes. Après, il faut que ça vienne du président. Si un président décide, moi, quoi qu'il arrive, je pars avec cet entraîneur, on ira au bout cette année. Et puis, si on doit descendre, on descendra, mais on ira au bout parce que moi, je veux que les jeunes y jouent. On peut
mais
pas.
Tu es d'accord avec les supporters de Rénal qui disent allez, descendons en Ligue 2 pour faire table rase du passé. Moi, je suis pas d'accord.
Ils l'ont déjà fait.
Avec,
hein.
Avec Saint-Etienne, oui, mais avec Saint-Etienne ou avec les Girondins de Bordeaux, on est bien placé avec Dugas pour savoir que descendre, c'est très facile, remonter, ça allait beaucoup.
Oui, ça, c'est une certitude. Hein. Vaut mieux être en haut qu'en bas. Hein. Ça, c'est voilà, c'est une certitude. Maintenant, il y a eu des exemples de clubs qui l'ont fait. Nantes l'a fait aussi. Hein. Valdemar Quita est descendu en D2, il est remonté. Voilà. Mais je veux dire, moi, je pense que c'est un projet de club. Voilà, on décide de faire jouer la formation. Bah, on fait jouer les meilleurs jeunes avec des joueurs d'expérience. Mais quand je dis des joueurs d'expérience, c'est des joueurs qui ont une mentalité particulière, qui s'investissent dans le club, qui s'investiront avec les jeunes, qui voilà. Est-ce qu'aujourd'hui le FC Nantes ou un autre club hein, est capable de le faire? J'en suis pas sûr.
Bonne question.
Ça c'est vrai.
J'en suis pas sûr. Je vois pas moi aujourd'hui dans ce championnat. On peut prendre Auxerre. Hein. Je vois pas aujourd'hui dans ce championnat un club formateur qui forme des jeunes, qui a une ossature de jeunes de la formation avec des anciens qui performent. Mmh. Voilà, il y a beaucoup d'argent aujourd'hui dans le football. Moi, je pense que quand on a de l'argent, il faut acheter intelligemment, il faut faire les choses intelligemment. Moi, je trouve qu'à Nantes, il y a beaucoup de joueurs qui sont surcotés, qui sont surpayés, qui sont, voilà quoi. Moi, je regarde quelques matchs. Hein. Ouais. Je vais pas vous dire que je suis assidu au FC Nantes, mais j'ai regardé le dernier match contre Lorient. C'était frustrant. Mais je veux dire, c'était frustrant. Mais ce match-là, ils doivent jamais le perdre. À l'arrivée, tu prends pas beaucoup de plaisir quand même à les voir jouer. C'est difficile. Alors la situation, elle est difficile. Quand on joue le maintien, il faut avoir des joueurs aussi qui ont cette capacité. Mental à jouer le maintien aussi. Hein. Si tu prends des joueurs qui jouent que la première partie de tableau et qui jouent que les premiers rôles et que tu les fais jouer dans une équipe qui joue le maintien, ça va être compliqué. Donc voilà, mais moi je pense que c'est un projet club, c'est le président qui doit donner le. Ou aussi un directeur sportif, bon, c'est lui qui doit donner le programme de l'équipe en disant voilà, on se tourne vers cette orientation, Castro, voilà, on se tourne vers cette orientation, Castro, on va le chercher. On lui donne confiance.
Tu sais qu'avec lui, avec Quita, c'est pas possible. Il a déjà montré la stabilité. C'est sa marque de fabrique.
Comme je te disais tout à l'heure, c'est un club qui écume les entraîneurs. Ouais.
Quand un retour de Reynald Pedros à Nantes alors?
Reynald est en Côte d'Ivoire là.
Pour l'instant, c'est pas d'actualité.
Non, c'est pas d'actualité, mais bon, ben déjà, sélectionneur de la Côte d'Ivoire féminine.
Pour l'instant.
Comment Reynald Pedros, ancien international français, se retrouve à la tête de la sélection de Côte d'Ivoire et a pas été contacté par l'équipe de France?
Je vais pas rentrer dans les détails.
Moi je le dis parce que t'as gagné la Ligue des Champions avec Lyon et tu as montré tes compétences et tes qualités. À l'arrivée, on a préféré un autre entraîneur.
J'ai postulé.
Mais t'as pas été retenu.
Et t'as vu passer le train. Et on m'a ouvert la porte en me disant bah, c'est pas la sortie.
C'est Domenech qui a dû mettre son veto.
Sérieusement, j'ai postulé et voilà, on m'a dit. On a choisi d'être dans la continuité. Bah voilà, très bien, il y a pas de problème.
C'est vrai que ça marche bien.
Merci beaucoup, Rénal,
et puis bon courage pour la suite.
Je peux faire une petite parenthèse.
Vas-y.
Alors je vais m'adresser à Dugas et à toi, Jérôme. Non, mais il y a quelques temps, j'ai pu écouter votre émission. Il y a même quelques mois. Et Dugas t'avait dit à toi que j'étais sorti du vélodrome dans le coffre d'une voiture. Tu te souviens de ça? Alors, je vais répondre parce que je ne suis jamais sorti du
vélodrome. C'est Lechkov.
Voilà.
C'est Lechkov, voilà. Il n'avait pas de cheveux, c'est plus facile.
Si tu me confonds avec Lechkov, c'est qu'il y a un problème.
C'est pas la même chevelure.
Il est bien carbo, Jérôme.
Rénal, merci beaucoup d'être venu en tout cas. La rectification
en tout cas,
est passée.
Merci à vous et puis passez une bonne fin d'après-midi.
Salut Rénal, à bientôt.
Allez, dans un instant, c'est le grand moment, l'avis de recherche de Christophe Dugarry. S'il a marqué votre vie, venez nous le dire au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
RMC 18h-20h. Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
On est bien dans Roten sans flamme sur cette deuxième heure. Magnifique deuxième heure qui s'annonce avec l'avis de recherche de Christophe Dugarry qui est là. Il est en train de transpirer. Et il a bien raison
de
transpirer.
De recherche, je suis là et bien là.
Hein. Non, pas toi. Pas toi. Non, mais on a galéré hein, pour retrouver quelques personnes. On a vraiment galéré. On a bossé. Jean-Michel Larquet nous a aidé aussi. On est avec Benoît Boutron. On a passé une excellente première. On remercie encore Reynald Pedros. Donc, Duga, tu vois, c'est pas lui qui était dans le coffre de la voiture.
Ah voilà, c'était Hitchcock.
Voilà. Et ben, écoute.
Duga, je veux juste que tu me fasses une promesse. Promets-moi que tu vas pas t'énerver, te fâcher et avoir une rancune envers nous après ton avis de recherche.
Oh ben ça, tu vas bah, t'es risqué péril. Non, je te promets rien du tout.
Surtout qu'alors, en plus,
on va pas tout annuler maintenant.
Non mais moi, je suis pas.
Ben
non,
c'est le jeu. Non mais Duga, c'est le jeu.
Mais non, c'est le jeu, bien sûr.
Ah bon, ben merci. Ça
moi, je peux t'en vouloir quand même.
Ok. Merci Duga. À 19h30, on parlera du RC Lens. Est-ce que Lens doit afficher ses ambitions? Pierre Sage était dans l'after hier pour un after spécial à Lens. Il a parlé justement de ce duel face au Paris Saint-Germain. Vous l'écouterez. Et puis à 19h45, le cadeau, c'est une montre Villa Silver Noir de la marque Kelton. La marque icône pop de l'horlogerie française qui fête ses 70 ans. 32-16 ou quiz par SMS au 732-16. Mais tout de suite, nouvel épisode de notre série Avis de recherche.
RMC, Avis de recherche, Christophe Dugarry.
Ce concept vous plaît, il est simple. La Dream Team de Roten sans flamme, composée de légendes du foot français. On donne notre avis tous les jours sur le foot, sur RMC, de 18h à 20h. Grande carrière de joueur, grande carrière de consultant. Ils ont peut-être marqué votre vie, vous avez marqué la leur. Venez nous le dire au 32-16, dites-le sur le 06-12 424 424. Ce soir, c'est Christophe Dugarry, notre champion du monde, notre champion d'Europe. Finaliste de deux coupes de l'UEFA avec Bordeaux en 96, avec l'OM en 99. Passé par les Girondins, l'AC Milan, le Barça, l'Olympique de Marseille notamment. Grand consultant, Canal+, M6, mais surtout RMC, avec Tim Duga de 2016 à 2020. Ouais. J'essaye d'être gentil parce que ce qui va venir n'est pas idéal. Est-ce que tu es prêt, Duga, à affronter justement toutes les vérités?
On voit la sauce.
Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire, Duga?
On n'a plus le temps après. Allez, après tu vas regretter, il n'y aura plus le temps de
c'est
dire.
Vrai, allez, c'est vas-y. Vrai, c'est vrai, on a perdu du temps déjà, il a raison.
Duga, ce que je te propose pour la première personne qui va intervenir, c'est de tenter de le reconnaître toi-même, ok?
Vas-y.
Allez, c'est parti. Bonsoir, vous nous entendez?
Motivé là.
Oui, très bien, très très bien.
Est-ce que vous avez un lien fort avec Christophe Dugarry?
Alors, on se connaît depuis de nombreuses années maintenant.
Ok.
On a été à l'école ensemble.
Ok.
On a des amis communs, on a... on peut dire qu'on se connaît très bien.
Ah, c'est qui, à ton avis, Christophe? Okay.
Je vois pas.
Alors,
on est à l'école ensemble.
Alors sachez tous,
t'as jamais été à l'école, toi.
Celle de Marie Labastide,
on était à l'école ensemble. Alors, sachez tous que
c'est une spécificité, je ne me souviens.
Du gars a des problèmes de mémoire.
Aucun professeur, moi sincèrement.
Bon, est-ce que vous avez
joué ensemble? On a joué dans le même club de football à Lormont, à l'IS Lormont.
Ah merde.
Du gars quand même. Bon, est-ce que vous avez un lien un peu plus poussé que le foot et l'école?
Alors oui, on a les mêmes parents.
Les mêmes parents? C'est mon frère, non?
On a les mêmes parents.
Eh oui, bah,
c'est ton frère.
Je connais même pas.
Non, Roten sans flamme, tu vois.
On a le même père et la même mère, donc oui,
justement. Ah oui, ça y est, je vous connais maintenant.
Oui, c'est lui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, c'est vrai qu'on a le même père et la même mère.
C'est mon David, c'est mon grand frère.
C'est incroyable. T'as même pas reconnu ton frère. Oui.
Oh. Pourtant, on a la même voix. On nous confond souvent, on a la même voix, donc.
C'est fou, ça. Le frère de Christophe Dugarry, David Dugarry, un an de plus, Duga. Un an de plus.
Frérot, hein.
Ben voilà.
C'est ça. 13 mois de différence.
Ouais, 13 mois de différence. Beaucoup de moments partagés sur les terrains de foot. David, raconte-nous ton Christophe Dugarry, parce que nous, on connaît la grande gueule, justement, tous les soirs dans Roten sans flamme. C'est qui ton Christophe Dugarry à toi?
C'est la meilleure, c'est la même à la maison le dimanche.
Non, il n'est pas. Non, moi, j'ai vraiment deux anecdotes avec lui, des trucs qui m'ont marqué, effectivement, parce que c'est vrai qu'on était, à Sainte-Marie-la-Bastide, donc au collège ensemble.
C'est ton frère, hein?
Et c'est vrai que, pendant l'inspiration, souvent, ça durait 10 minutes, un quart d'heure, pendant récréation, il y avait toujours un ballon de foot et on avait la chance d'avoir un terrain de handball où pendant toutes les récréations on faisait des matchs de foot Et souvent, on se retrouvait l'un contre l'autre, parce que c'était souvent les cinquièmes contre les sixièmes, on avait un an d'écart, donc une classe d'écart. Et c'est simple, c'est qu'à chaque fois, tant que ils ne gagnaient pas, il fallait pas arrêter le match. On ne pouvait pas arrêter le match tant qu'ils n'avaient pas gagné. Alors souvent, c'était, quand ils perdaient, c'était au but vainqueur. Et quand ils gagnaient, on pouvait arrêter le match. Et très souvent même, ça nous a coûté quelques retenues. On arrivait souvent en retard en cas, parce que même quand la sonnerie sonnait, il voulait pas quitter le match. Donc on se faisait souvent coller. L'avantage qu'on avait, c'est qu'on avait des profs de sport où on jouait à l'UNSS et le mercredi après-midi, on était collés le mercredi après-midi. Et comme on avait des matchs du collège ou du lycée le mercredi après-midi, les profs de sport nous faisaient sauter les...
Ah, c'est bon, ça, excellent.
L'école, incroyable.
On a eu, mais on a été retenus quelques fois. On s'est fait quelques fois engueuler par nos parents. Mais écoutez,
Tu te rappelles de tous ces moments, du gars? J'espère, au moins.
Moi, je me rappelle des moments où je rentrais en classe, tu sais. J'avais piqué le ballon parce qu'il était hors de question que quelqu'un touche mon ballon, déjà. Et en plus, tu sais, tu rentres, t'as une heure de maths ou de français ou ce que tu veux. Et t'as tellement transpiré parce que t'as tellement couru que déjà, les cours, le prof, il parle. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Tu transpires dans le dos de partout. Et le cours, il commence. C'était ces moments-là. Je détestais ces moments-là. J'avais pas le temps de prendre ma douche. C'était horrible.
Alors, j'en ai aussi
vas-y, souvent, David,
mais j'ai raconté, parce que, qui est beaucoup plus récente cette fois. Ouais. C'est qu'on avait chance de se retrouver dans une famille un petit peu au Maroc. Et à ce moment-là, on se retrouve et on fait souvent des parties de pétanque. Voilà, où on se retrouve, on est entre des amis, des copains, la famille, ouais. On se fait
partie des temps. Il veut toujours gagner.
Ah ouais.
Il veut toujours gagner.
Ça, c'est sûr,
il veut toujours gagner. Ouais. Et quand il perd, le pire, c'est qu'on joue, et je me souviens très bien de cette dernière partie, il y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ou 3 ans. On se retrouve, j'avais la chance de gagner 12-0. Ah, Christophe était comme un fou parce qu'il jouait contre moi. Donc il était comme un fou, il bondissait partout, il déteste perdre quand on s'investit pas à fond. Et je me souviens qu'à ce moment-là, il y avait des oliviers autour, on s'est retrouvés à jouer par-dessus les oliviers. C'est-à-dire qu'on était joué entre les branches, il perdait 12-0. Et le pire, c'est qu'il a réussi à gagner 13-12. C'est la pire déception de ma vie.
Tu voulais pas le fâcher, t'étais invité chez lui.
Je vous jure que non, j'avais même perdu l'arbre.
J'avais mis le cochonnet derrière l'arbre, donc pour jouer.
Non,
mais c'était horrible. Bon.
Et David, merci beaucoup d'être venu. Désolé qu'il t'ait pas reconnu. Désolé, David.
Ah non, mais c'est fou,
j'ai
pas reconnu mon grand-père.
Merci David, en tout cas. Merci beaucoup. On est dans le avis de recherche de Christophe Dugarry. Je m'excuse par avance pour les autres intervenants qu'il ne va certainement pas reconnaître.
Ça, c'est sûr que non.
Il reconnaît
pas son frère.
La deuxième personne qui a marqué sa vie est en direct avec nous. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur Dugarry, vous me reconnaissez?
Ah, ça c'est Vincent Candela.
Ah là, ça tombe. Ah bah oui. Copines, ça tombe. Hein.
Non, on parle là en italien, parce qu'à la grande. Trop facile. Mais bon. Mon français n'est pas très clair, donc il m'a reconnu. C'est
je
plus
sais
facile.
Pas si c'est mon italien est meilleur
ça va,
que ton français.
Ça va, frérot.
Non.
J'en suis sûr.
Vincent,
non, Vincent c'est, bon, Vincent,
ça
c'est,
va,
c'est,
tout
c'est,
va bien.
C'est mon frérot du foot, voilà, avec Zizou, on est le trio. C'est ma vie, Vincent. C'est vraiment mon poteau du fond du cœur. On s'aime très très fort. C'est vraiment quelqu'un qui compte énormément pour moi. Ça me fait plaisir de t'entendre, mon poteau.
Je te remercie, ça fait plaisir. Oui, du gars, si je le raconte en quelques paroles authentiques, vraies,
un dossier on veut. Hein. Ah oui.
Le grand gueule, bon, il faut s'adapter, mais non, il est là, il est présent, il dit ce qu'il pense. Après, ça dépend comment on le prend, mais bon, il faut le prendre du bon côté parce que il dit souvent le vrai, donc ça, des fois, ça fait pas plaisir. C'est quelqu'un de compagnie, mais de temps en temps, il aime, je pense, être seul parce que bon, il est différent. Donc c'est comme ça que je vois mon frérot du foot, et c'est vrai qu'on a passé des années et des années. génial, et même si de temps en temps maintenant on se voit un peu moins, mais l'amour, comme il dit, c'est ça, rien n'a changé quoi. Voilà. Bon, des anecdotes qu'on ne peut pas les raconter.
Si, c'est le but.
Bon, c'est honnête, tu peux.
La seule chose qu'on peut raconter, c'est que quand on était en sélection, par exemple, le match en sélection, ça se faisait le mercredi. On avait rendez-vous le lundi matin à Clairefontaine et on se retrouvait. Alors le dimanche, quand j'étais en Italie, moi ou en Espagne ou même en France ou quoi, il y avait des matchs où le samedi soir ou en Italie, ils jouaient beaucoup le dimanche. Donc le dimanche, il était à 13h, 14h le match et on se retrouvait le dimanche soir à chaque fois pour dîner. Alors dans les endroits un peu à la mode, un peu tendance.
Et vous faisiez quoi alors?
Les joueurs de l'équipe de France aussi, qui voulaient, qui nous appelaient pour. Alors vous êtes tous les gars, on se retrouve et on se faisait une gamelle entre nous. Et ça a fait. Et je pense que ça a aidé beaucoup ce qui s'est passé en 98. Ces moments-là qu'on passait le dimanche soir à se retrouver, où on avait tous hâte de monter à Paris. Alors après, ça partait pas en folie non plus dans des trucs qui étaient complètement délirants, parce que le lendemain, on avait rendez-vous à Clairefontaine, donc il y a un match 3 jours après. Mais c'était quand même le moment de se retrouver, et on a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à ce moment-là. Et Vincent et moi en étions un peu les instigateurs, les feux follets, les rigolos, les tout ce que tu veux. Et c'est vrai qu'on a réussi avec ces moments-là du dimanche soir à créer.
Mais tu sais, du gars, avant de poser une question à Vincent, parce que c'est plus lui qu'on a envie d'entendre. Ce que tu dis là, en fait, nous, derrière, on est arrivé après, en sélection, ben, ça a continué.
C'est une tradition,
en fait. C'est une tradition d'arriver le dimanche soir et de se retrouver. Ouais. Ben,
c'est un peu nous qui avons fait ça avec Vincent. C'est vrai que tout le monde nous appelait, qu'est-ce que vous faites, les gars?
Ils savaient qui joindre, hein, évidemment.
Ouais, et puis merci de nous avoir laissé les bonnes adresses.
Non, c'est vrai, le dimanche soir, c'est vrai qu'on se retrouvait, mais après le match aussi, on faisait le mercredi soir, quand même, avant de partir, pour se dire.
Ah oui, quand même,
c'est dimanche, c'est mercredi, il faut le dire.
Pour le décrassage, ben oui. Bah oui.
Non, voilà. Ouais,
mais moi, Vincent.
Pas beaucoup, donc un bon décrassage après, c'était pas mal.
Vincent, moi j'ai une question sur comment tu prends toutes les. Le côté médiatique du gars, il est très clivant, et forcément, il y a des critiques qui fusent, qui dépassent les bornes très souvent. Comment on vit ça quand on est aussi proche de lui comme ça?
Non, mais je pense que ça fait partie de notre métier. Moi, je suis pas trop médiatique. J'ai jamais été et c'est pas mon truc. Mais ceux qui travaillent à la télévision, ceux qui sont, ils ont une autorité au niveau des médias. Donc, je pense que ça fait partie du métier. Mais ça touche pas quand quelqu'un est sûr de soi. Après, on peut pas avoir les d'accord de tout le monde. Mais ça fait partie du métier. Je pense que y a aucun problème et ça le touche pas. Même si c'est même bien qu'on en parle en Italie, parce que dernièrement on en a parlé en Italie de Monsieur Dugarry.
Ah oui, avec Cassano là.
De l'émission, ouais. Mais ça fait partie de la beauté du football. Après, chacun, il y en a pas beaucoup qui comprennent le football. Je peux dire que Dugarry, il comprend et il est très bon dans son second métier. Même si le plus grand amour reste le football, mais l'analyser, c'est encore différent. Faire entraîneur, c'est encore différent. Mais je pense que dans ce métier, ça fait partie d'être critiqué, d'être aimé ou pas aimé. Mais je pense pas que ça le touche, que ça soit n'importe qui. Hein.
Vincent,
je pense. Hein.
Merci beaucoup d'être venu. Au moins, toi, il t'a reconnu. Oui. Donc, c'est une fierté personnelle pour toi. félicitations. et à bientôt sur RMC dans Rotten Sans Flamme.
Merci alors.
Salut Vincent.
Salut Vincent, merci encore.
Beaucoup,
Vincent.
Bisous à tout le monde. Ciao frérot.
On a un nouvel intervenant qui a marqué ta vie, notamment à un moment clé de ta carrière sportive. Du gars, on va l'accueillir tout de suite. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous connaissez bien Christophe Dugarry, et c'était la fin des années 90.
C'était la fin des années 90, mais j'ai un peu la pression parce que vu qu'il n'a même pas reconnu son frère, donc j'imagine qu'il risque de ne pas me reconnaître à moi. Donc Christophe, ça faisait un moment déjà que je voulais parler de ça avec toi. C'est une situation qu'on a vécue ensemble sur un match très important dans nos carrières. Une demi-finale.
C'est Peter Luxin, ça?
Il a revenu. Bah, faut raconter, Peter. Vas-y, on parle de.
Vas-y, poulet, vas-y.
Vas-y, vas-y.
Ton histoire.
Christophe, bon, déjà avant tout, toujours un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Donc, je vais te parler un peu de plus d'une anecdote, d'une situation et un fait important dans nos carrières que tu m'en as voulu pendant longtemps. Et en plus, j'avais pu écouter une interview de toi sur ce sujet-là. Et j'aimerais bien un peu remettre les pendules à l'heure. D'accord?
Donc, vas-y, remets.
Donc, j'aimerais que tu me dises vraiment, qu'est-ce que tu m'as reproché sur ce match? Et tu sais de quel match on parle?
Ah, pour Bologne, pour la bagarre?
Bologne. Exactement.
Je vais préciser, c'était demi-finale retour de Coupe de l'UEFA. Le match se termine dans une situation de tension, il y a un partout. Marseille décroche la qualif, bagarre générale. Peter Luxin est ciblé, d'ailleurs il y a des insultes racistes qui sont ciblées donc envers Peter Luxin. Début de bagarre, d'échauffourée dans le vestiaire. Toi tu vas pour le sortir de là un peu, tu pètes un plomb du gars, bagarre générale, vous êtes suspendu pour la finale. Voilà.
Non, mais te reprocher, t'as rien à reprocher. Après,
Christophe, je vais remercier, je vais dire quelque chose quand même.
Vas-y. Non, y a pas de souci. Non, mais après te reprocher, c'est sûr que s'il y a pas cette embrouille devant,
c'est qu'il a été là.
Si tu te fais pas insulter, si tu t'embrouilles pas avec les mecs, si tu réponds pas, je suis pas derrière pour le faire. Donc, si tu veux, ce qui s'est passé avec toi, l'incidence derrière fait que, tu vois, c'est, mais toi, t'es responsable de rien, tu te fais agresser, je peux pas t'en vouloir à toi, j'en veux à la situation, parce que s'il y avait pas eu cette situation, et après, je peux m'en vouloir qu'à moi, hein, c'est moi le débile qui va, au lieu de séparer, j'y vais pour aussi mettre des tartes, c'est le seul et unique responsable, mais j'en veux plus à la situation et à ce qui s'est passé plutôt qu'à véritablement à toi. T'es pas responsable de ma bêtise non plus. Non, si je l'ai dit comme ça, je m'en excuse. C'était pas l'idée. Toi, t'es bien évidemment responsable de rien, quoi.
Ah non, mais Christophe, t'as pas à t'excuser. De toute manière, moi aussi, je suis fautif de cette situation. Je t'ai toujours considéré, même à l'époque de Marseille, comme un grand frère. Il y avait bien sûr Laurent et toi. Et ça ne change pas. J'étais toujours admiré en tant que personne et joueur de football. Ça changera pas. Et encore une fois, c'est une situation, donc une anecdote assez importante dans nos carrières et dans la mienne.
Elle nous unit à vie, celle-là.
Parce que j'ai pas pu jouer justement. Elle nous unit à vie et je te le dis encore une fois, j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Tu as toujours eu un franc parler, que ce soit en tant que joueur et en tant qu'analyste. Et bon, ça changera pas. Et j'ai vraiment été content de jouer avec toi et de faire partie de ta vie à un certain moment. Et ça, comme tu dis, ça a été des moments inoubliables et je les oublierai jamais, quoi.
Ah, c'est gentil. Merci, Peter. Toi aussi, ça a été un plaisir aussi de jouer avec toi. Tu as été un immense joueur, un très, très grand joueur. Et ça a été vraiment un bonheur aussi. En plus, tu es un bon garçon et tout. Donc vraiment, merci beaucoup.
Merci
beaucoup.
Peter Luxin, d'avoir pris le temps de répondre. Merci beaucoup, Peter.
À bientôt.
Belle surprise.
Ouais.
Merci, à bientôt.
Ciao Peter.
Merci à tout le monde. À bientôt. Bye bye. Merci encore.
Puis le plus beau match de cette. Non, c'était la finale.
Ah ouais, ça te fait rire. Tu trouves ça drôle, toi. La défaite contre Parme en finale. Ah mais merde. C'était serré.
Non, mais après, on est. Alors,
je pensais pour Roland Courbis, qui était l'entraîneur, d'ailleurs.
Je suis pas sûr qu'on aurait gagné quand même.
Ouais,
même
ouais.
Avec Parme, c'était une sacrée équipe. Ouais. Allez voir la compo, vous allez voir.
Bah ouais, Lilian m'a dit que vous aviez aucune chance.
Alors, Dugas, s'il te plaît. Avant que ça chauffe et qu'il y ait des témoignages un peu piquants, je te demande juste de ne pas nous foutre la honte avant ce témoignage qui arrive, s'il te plaît. D'accord ? Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là.
Pas responsable.
Est-ce que vous connaissez bien Christophe Dugarry ?
Je connais bien Christophe Dugarry et j'ai en face de moi une photo qui a été prise le 26 septembre 1998 où Christophe est là avec une multitude d'enfants. Je suis à côté de quelqu'un qu'il connaît très bien, Patrick Simon, mon ami Chin, et ça a été pour notre ville, là on touche les racines de Christophe, l'un des moments qui a le plus marqué notre commune avec beaucoup d'enfants. Oui, Christophe, tu m'as reconnu bien sûr.
Le maire de Lormont. Eh oui, monsieur voilà. Jean Touzeau, maire de Lormont, maire historique de Lormont, ouais. La ville de Christophe Dugarry.
J'ai l'honneur de mettre un stade à mon nom.
Oui, exactement.
Jean, merci beaucoup. Et c'était un très grand honneur pour nous parce que d'abord, tu as représenté, tu représentes, tu l'imagines avec non seulement ce stade, mais ton parcours dans la ville. Et puisque tu représentes comme personnalité, Parce que tous pareil, tous pas pareil, la liberté, l'expression et ton tempérament de battant. Voilà, se battre, essayer de gagner en permanence. Je pense en même temps que je vois cette photo à tous ceux à qui tu as donné envie d'avoir envie. Voilà. Et je voulais te dire un très grand merci au nom de leur monde.
Merci à toi.
Voilà.
Merci.
C'est tout, c'est simple. Après, les vies séparent, les chemins sont différents, mais je sais que tu as beaucoup marqué. Au moment où moi aussi, je fais un pas de côté sur 30 années d'engagement dans la ville, tu vois, 30 années, un retour 30 années en arrière, avec sans doute un des plus beaux moments vécus par notre ville, par les jeunes, etc. Et tu connais l'attachement que je peux avoir, que nous pouvons avoir avec ces parcours de réussite des jeunes que tu as porté, hein. Et un exemple qui me vient naturellement, et je sais que tu vas y être sensible, Lamine Diatta, qui est également aujourd'hui le manager.
Beaucoup de réussite du côté de Lormont, bien sûr.
Et oui, et Lamine Diatta est venu la semaine dernière m'embrasser, me porter la médaille, sa médaille de manager de l'équipe du Sénégal, tu sais. Et j'ai pensé à toi. Voilà.
Bon, merci. Eh ben magnifique.
Monsieur le maire, j'ai une question. Il n'y a pas un problème de clé là avec la ville.
Si. Mais là, Christophe, il va falloir qu'il se ressaisisse. Je plaisante, bien sûr, parce que le jour de l'inauguration du stade, avec toute la foule qu'il y avait, c'était en 98, etc. Je lui ai remis les clés de la ville.
Ah oui.
Et alors? Oui. Eh bien, il faut qu'il revienne.
Mais elles sont où les clés?
Barrons les clés, du gars.
Il faut qu'il revienne m'aller porter. Et qu'il verra que ces points qui ont marqué sa vie, le stade du Gary, l'escale, le stade de la Doumègue et sa ville, puisqu'il habitait pas loin de chez moi du tout, et tous les jeunes qui aujourd'hui ont les tempes grisonnantes, beaucoup d'expressions, ils se rappellent vraiment de ce formidable parcours. Du premier match que tu as fait avec à Marseille, à Bordeaux contre Marseille, avec Goethals comme entraîneur, et où tu avais tous tes copains du collège qui étaient derrière les grilles à regarder comment tu allais jouer. Voilà.
Et ben merci monsieur le maire.
Merci monsieur le maire.
Le maire historique de Lormont qui est venu rendre hommage.
Ce que je représente et qui te dit un très très grand merci.
Et ben merci. Il reviendra, vous inquiétez pas.
Alors,
dans
tout
la
ça,
ville.
Avec les clés.
Je vous raconte pas ce qu'il fait le week-end.
Merci monsieur Foujoie. Bonne soirée.
Allez, au revoir.
Alors ça, c'était des témoignages sympas. On a un témoignage spontané au 32-16.
Ah, spontané.
C'est Valentin qui a voulu nous appeler ce soir, Jérôme.
Salut Val.
Bonsoir.
Salut Valentin.
Alors, t'as une expérience avec Christophe Dugarry.
Ouais, alors déjà, avant toute chose, je me dédouane de toute responsabilité de cette histoire. Ah. Je m'explique.
Oh là, j'ai peur. Ah,
Christophe, faut pas trembler les jambes là. On est là. Donc, je t'explique. Christophe, on s'est rencontrés dans un bar à Bordeaux où j'étais serveur.
Oh merde.
Oh là là. Ah bah tiens, bien sûr.
Et ouais, mais ouais, la fameuse bouteille de vodka et de jet, je sais pas si ça te parle.
Ensemble et ou l'un après l'autre?
Il y avait Lilian,
j'avais les deux à côté.
Lilian Lasland était là ou pas?
Non, il était en plein gamin. Et donc, parce que bon, on rigole, mais.
Vas-y, Valentin, pardon.
Donc, à l'époque, tu avais, comment dirais-je, tu chinais ma sœur.
Oh!
C'est possible,
Izzy Dugas.
C'est possible. C'est pas fini, parce que je t'amène à la bouteille. Moi, grand fan des Girondins à l'époque. Bon, j'étais fan de toi jusqu'à que tu signes à l'OM, mais ça, c'est autre chose. Et j'arrive tout penaud, je t'amène les bouteilles. Je me dis, bon, je vais prendre 2 minutes pour lui parler. T'as été, bon, on va pas dire le terme, mais un peu, voilà, tu t'en foutais. Et à tel point que pour te faire réagir, je t'ai regardé, je t'ai dit, excusez-moi, M. Dugarry. Et je lui ai fait, Monsieur Dugarry, excusez-moi. Je lui ai fait, mais vous allez être champion du monde. Et là, tout fièrement, tu me dis oui. Je lui ai dit, mais vous avez joué combien de minutes déjà? Et là, je suis parti. Parce que je t'ai énervé. Et je voulais juste te piquer. Et 5 minutes après, ma sœur, elle revient. Elle me dit, je sais pas ce que t'as dit à Christophe Dugarry, mais il t'adore. Et là, je te jure, je me suis posé au bar face à moi-même. Je dis, mais il est fou ce mec.
Mais il est taré. C'est incroyable.
Donc, j'aime bien les originaux. C'était une bonne approche, certainement. Ça m'avait fait rigoler dans le moment. Dans l'état où je devais être, ça, c'est un moment ce qui m'a fait rigoler.
Ouais, c'était en toute décontraction, si on peut dire ça comme ça.
Bon, avec plaisir. Et on embrasse ta sœur, quand même.
Valentin, merci pour ta
réponse. Calmez-vous.
Non, bien sûr. Valentin, merci beaucoup. beaucoup.
Merci Valentin. Bye bye.
Salut, salut.
C'est terminé pour le avis de recherche spécial Christophe Dugarry. T'as passé un bon moment, ça va, ça a été.
Oui, c'était très bien. Ouais. C'était très bien.
T'as senti un peu tendu.
Merci, bon, merci
ça
beaucoup.
Ça s'est bien passé, c'était super. Allez, réécoutez ça en podcast. Gros travail de Nicolas Ledru, notre producteur, qui a retrouvé le maire de Lormont quand même. Bravo.
Ouais.
Voilà.
Ah ouais. Bah oui, oui. Bon. C'est des souvenirs. 30 ans, c'est pas rien, quand
même. Incroyable.
Non.
Dans un instant, l'avar de Rotten sans flamme, on parle du RC Lens et des ambitions lensoises pour la fin de saison. Et puis,
ça va péter avec Pierre Sage.
Nos confrères de l'équipe annoncent à l'instant que Nicolas de Taverneau claque la porte de LFP Média. Donc, on pourra réagir dans un instant avec vous et avec vous aussi au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h32 sur RMC, on est là, on est bien. La dernière demi-heure de Rotten sans flamme avec Christophe Dugarry, avec Jean-Michel Larquet et avec Benoît Boutron dans 15 minutes. Le moment de la boucherie, c'est le quiz de Louis Gervier. Ouais. Il sera là. Belle semaine pour moi pour l'instant.
Mm-hmm.
Je pense qu'elle est positive.
Ouais.
Donc,
t'as perdu hier. Je t'ai fait perdre, désolé.
Il n'y a que hier.
Ouais.
Bon, autant plus. Écoute, on va passer un bon moment parce que là, on va parler de Pierrot. Pierre Sage.
Pierre Sage, ouais. Et bien sûr. Et je précise que demain, il y aura un Rotten sans flamme un peu particulier parce qu'il va durer 3 heures. 1 heure classique et 2 heures de match avec ce Rennes PSG à suivre en intégralité. Jérôme, au commentaire, tout ça, ça va être fantastique.
Génial.
Allez, Jérôme, 19h33. L'arbitre vidéo t'appelle.
Jérôme, oui. Je t'invite à écouter ça.
Le PSG est prenable à condition qu'il ne soit pas le PSG. Ça dépend beaucoup d'eux et on peut, nous, arriver à les faire déjouer par moment du match, mais sur la globalité du match, c'est assez compliqué. Mais dans tous les cas, il y a de l'espoir. Pour le titre, il faut déjà arriver à... Je pense, dans tous les cas, il faudra battre Paris. Donc, j'aimerais bien qu'on fasse le point
après ce match.
Le 12 avril à 23h.
La VAR de Rotten sans flamme.
C'était Pierre Sage au micro d'RMC dans l'after hier soir.
Moi, en direct
du Stade Bollard. Il y avait Pierre Sage, il y avait Adrien Thomasson et Jean-Louis Lec, ton nom.
Jean-Louis Lec.
Benjamin Parot également. Lens est deuxième de Ligue 1. À 2 points du PSG, il reste 13 matchs à disputer. Il y a 7 points d'avance sur le 3e. Déplacement au Paris FC samedi. Pour Pierre Sage, le PSG est prenable à condition qu'il ne soit pas le vrai PSG. Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que vous pensez du discours? Est-ce que Lens, ça y est, à 13 journées de la fin, doit afficher ses ambitions, Jérôme? Ça y est, il faut viser le titre désormais, non?
Bah, ça me paraît logique. Ils visent quoi, en fait? Parce que là, ils ont 10 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, qui est 4e.
Exactement. D'accord. Donc la Ligue des Champions, c'est bien plus que bien parti.
Donc on va dire, allez, si tu fais comme ça, t'as 4 matchs d'avance. Il reste 13 matchs à jouer. Donc sachant que Marseille va pas faire un sans faute, ils vont pas gagner leurs 13 derniers matchs.
Je sais pas.
Non, mais non, ils gagneront pas leurs 13 derniers matchs. Donc ça veut dire que t'as 5 ou 6 jokers. Non mais franchement, oui, je pense que le plus dur est fait déjà pour Lens, pour les 3 premières places. Et donc une fois que t'as rempli cette mission-là, qui était une mission pas du tout envisagée en début d'année, bah c'est magnifique. Bah écoute, pourquoi pas jouer les troubles faites. Bah,
est-ce qu'il faut l'assumer publiquement?
Ils peuvent plus se cacher. Après, le dire ou pas le dire, on s'en fout. Moi, la vérité, je m'en fous. Moi, je suis tombé sur Pierre Sage en termes de rythme dans sa communication, parce qu'en effet, je trouve qu'il est mou, mais il est mou.
Ah, c'est une personnalité.
C'est comme ça. Fait son charme à l'arrivée, mais ce qu'il met en place, il fait du super boulot avec son groupe et avec ce club. Donc moi, bien sûr qu'ils sont ambitieux. Écoute, ils vont pas te le dire, ils vont pas nous le dire à nous, mais dans le vestiaire. Tu crois que les joueurs, Thomasson, demande-lui Thomasson,
qui a
pas gagné un titre. Bah, et forcément, il a envie. Mmh. Et si tu lui dis, t'as envie d'être champion, t'as envie de gagner la Coupe de France, il va te dire non.
Bien sûr que t'as envie. Il va te dire non. Mais bah, il faut l'affirmer publiquement.
Mais il le joue le titre.
Il a besoin de le crier haut et fort. Alors qu'il est deuxième à un point, il démontre qu'il est à deux points et il démontre qu'il est dans le coup et il ne s'interdit rien. Il n'a pas dit on abandonne la lutte. De toute façon, le Paris Saint-Germain va redevenir,
ils sont trop forts, et puis nous
ils sont trop forts, et nous il mise évidemment sur le match qu'est-ce qu'il a dit,
le 12 avril,
le Lens PSG.
Le lance par Saint-Germain qui sera évidemment peut-être le tournant. Mais si si le 12 avril, ça veut dire que ce match-là est capital pour l'obtention du titre, ça veut dire qu'ils auront fait un bon boulot quand même. Et plutôt que de se raconter des histoires, il vaut mieux le prouver sur le terrain. Et jusqu'à présent, ils ont prouvé sur le terrain qu'ils étaient une équipe qu'il fallait respecter et une équipe qui faisait des résultats et qu'une équipe qui était dans la roue du Paris Saint-Germain. D'accord. C'est quand même pas rien. Il n'a pas besoin de l'assumer en fait.
Je comprends pas.
Il n'a pas besoin de te le dire. Il le fait. Ouais. Moi, je préfère quelqu'un qui fait plutôt que quelqu'un qui dit et qui fait pas.
D'accord.
Enfin, c'est quand même extraordinaire.
C'est un supporter marseillais. C'est pour ça qu'il s'est mal habitué.
Ouais, c'est ça.
Moi, je veux de la déclaration fracassante toutes les semaines.
C'est ça. Être champion.
J'aurais préféré qu'il dise on est petit, on lutte contre les puissants. C'est ça qu'on voulait entendre de la part de
Duga. Les déclarations. J'ai lu une déclaration de
Zerbi là après le match. Juste un truc qui est génial aussi où, après le trophée des champions là contre Paris, il paraît qu'il aurait dit dans le vestiaire à ses joueurs, il a dit là on est parti pour en jouant comme ça on peut atteindre la demi-finale de la Ligue des Champions.
Là, c'est vrai qu'il a dit ouais.
Mais c'est, je savais pas ça, mais j'en apprends tous les jours. Mais c'est génial. Génial de dire un truc comme ça.
Ouais, mais il l'a dit, est-ce qu'il l'a dit avant de pleurer ou après avoir pleuré? Parce qu'il a pleuré dans le vestiaire aussi.
Alors ça c'est pas dit, il y a pas la chronologie.
Du gars, ça t'a peut-être échappé, mais on parle de Pierre Sage.
Oui, pardon. Désolé.
Non, mais alors après ça c'est le truc de Benoît. Il faut annoncer. Il adore quand on annonce. Il adore les
gens. Bien quand on affiche ses ambitions. Vous avez la petite mentalité française. Vous faut jamais rien dire. L'important c'est les trois points, tout ça. Bah non. On peut dire qu'on joue le titre.
Les trois points, mais qui sait.
Ah oui, c'est ça. Vous êtes trop habitués à ça.
On joue le titre. Ils ont un budget de 60 millions d'euros.
Et toi, t'es pas comptable, Duga, à chaque fois. Duga, c'est l'expert comptable.
Ils n'ont pas un joueur de leur équipe qui serait titulaire au Paris Saint-Germain. Et tu veux qu'ils disent quoi? Qui veut dire on va aller tordre?
Eh bah, ben, ça y est, on est à 13 journées de la fin, on y va, on veut jouer le titre.
Mais on y va, bien sûr,
ils
vont jouer le titre.
Eh ben, dis-le.
Dis-le quoi?
Eh ben, dis-le, je joue le titre. Je veux être champion de France avec le RC Lens. Voilà. On veut battre le grand Paris Saint-Germain.
Et ça va changer quoi?
Eh ben, au moins, ça sera affirmé, comme ça. Tu vas donner encore plus d'espoir à tes supporters.
Benoît dormira mieux.
Une vague comme ça, sans et autres.
Il faut qu'il fasse plaisir à Benoît.
En plus, la vérité, c'est que quand maintenant tu.
Mais ils arriveront pas en plus.
Tu comprends le pire ça.
Il a cassé le truc direct.
Mais non, mais j'espère me tromper pour eux, pour les Lensois, pour leur saison, pour tout ce que tu veux, pour le championnat.
Ça va être dur.
Aujourd'hui, j'y crois pas. Je crois pas que Lens sur 13 matchs il va falloir gagner 12.
Surtout que le PSG est sur 7 ou 8 victoires de suite.
Paris a l'air de retrouver un très bon niveau ouais. Donc ouais. J'y crois pas mais pourquoi pas l'annoncer si ça te fait plaisir à l'annoncer et se casser la gueule. Toi tu veux qu'il annonce pour se casser la figure. Toi,
non
je sais que
pas du tout.
Mais si t'es
j'ai un rêve, je vous le dis, j'ai un rêve, c'est qu'il y a encore du suspense le 12 avril et que là on est un grand match.
Tout le monde peut-être, tous si t'es supporter de Lens, tout le monde l'imagine, même Pierre Sage.
Mais vous êtes pareil, Jérôme et Capitaine, vous y croyez pas une seconde au titre de Lens. Pour vous, c'est trop dur, Paris est trop fort.
Non, moi je dis pas ça.
Tu dis pas ça.
Non, moi je dis que la régularité de Lens, franchement, elle est surprenante. Qu'ils ont atteint le plafond de verre, on se rend compte quand même que quand les équipes elles atteignent un certain niveau, ils galèrent. Ils ont galéré au Parc des Princes quand ils sont venus ici, ils ont perdu 2-0 avec un petit Paris Saint-Germain. Mais le contexte a fait que il y avait rien, il y avait pas d'énergie. Le match à Marseille, moi, il me reste en travers de la gorge parce que
2-0 dans le premier quart d'heure.
Parce qu'ils l'ont pas joué ce match-là. Et je suis sûr. Alors ils vont pas te le dire aujourd'hui parce qu'ils ont bien réagi et tant mieux pour eux. Comme ils avaient bien réagi après la défaite à Metz qui était pas prévu en début de saison. Là, ils ont bien réagi, mais ce match en fin de saison, s'il te manque 2 points ou 3 points pour être champion, tu te diras, mais merde, ce match-là, Marseille, quand même, on l'a pas joué, quoi. On est arrivé.
Il y a tellement qu'ils ont gagné dans la dernière
minute. Oui, c'est vrai.
Non, mais de toute façon, Jérôme, sur la saison, ils s'en sortent pas mal. Oui, les Lensois, ils ont Non, mais t'as raison.
Tous sont en collé, là, autour d'eux.
Non, mais t'as raison. Mais on l'a tous fait, ça.
Non, mais tous sont en collé, là. S'il y en a un qui, à 13 journées de la fin, avait pronostiqué que Lens serait deuxième à 2 points du leader et 10 points devant Marseille, on l'aurait pris pour un jobard quand même. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Tu crois pas non plus, Jean-Michel ? Tu penses que c'est trop dur ?
Mais ce que j'y crois ou que j'y crois pas, c'est ils s'en foutent les Lensois.
Oui, mais on peut pas te demander ton avis. On peut pas faire une émission en te demandant ton avis.
Mais non. Moi, je suis comment dirais-je ? Je suis satisfait de voir qu'une équipe. Et je suis insatisfait de voir qu'une équipe comme Lens, qu'on n'attendait pas, est à 2 points. Et je lui souhaite le meilleur. Bon, mais évidemment. C'est incroyable.
C'est pas un chat qu'il a dans la gorge. C'est un chat, une chatte et.
J'ai une autre actualité à traiter avec vous. Ça y est.
Ouais, qu'est-ce qu'il y a ?
Attention. On connaît la composition du groupe de l'équipe de France pour la Ligue des Nations. Post-Coupe du Monde de la FIFA.
On attendait que ça.
Post-Coupe du Monde.
On est dans le groupe de la mort avec l'Italie, la Belgique et la Turquie. Ça sera l'automne prochain.
La Belgique.
Du gars, est-ce que tu as une réaction de Zizou parce que ce seront ses premiers adversaires. Du coup, à la rentrée, est-ce que Zidane est content ou pas d'avoir ce groupe-là, donc Italie, Belgique et Turquie, faut finalement.
Là, t'as 10 minutes pour lui envoyer un message et qu'il te réponde.
Benoît, faut que tu te reposes. À mon avis, là, tu vois, t'es en train t'es en burn-out, là. À mon avis, t'es pas bien.
Il y a un constat quand même, Italie, Belgique, Turquie, c'est que la chatte ADD a disparu. Déjà.
Ah bah en tout cas c'est le groupe de la mort, voilà. Donc
Didier vient de m'envoyer. Ah bah voilà, hein, vous avez voulu que je parte. Et ben bah, regarde ce qui vous arrive. Oh, et bon courage Zizou. Oh, bah, oh, il est
voilà, coquin. Italie, Belgique, Turquie, ce sera la rentrée.
Didier,
ce
qu'est-ce qu'il est marrant.
Les premiers pas du nouveau sélectionneur Dugan Udze, donc ce serait Zidane serait officialisé d'ici quelques semaines.
Dugan, il sera adjoint.
Peut-être. On sait pas. Pascal Olmeta peut-être. Entraîneur des gardiens.
Quoi?
Non, à la buvette. Non, à point, c'est Luis Fernandez.
Ah oui, c'est vrai. Il s'était proposé, Luis. Et puis, dernier mot, juste une réaction. Je vous dis, nos confrères de l'équipe donc annoncent que ça y est, décision tombée pour Nicolas Taverneau qui claque la porte officiellement de LFP Média. On en a parlé dans le procès tout à l'heure.
Vincent Laprune va reprendre plus ça.
La Prune.
J'ai eu des difficultés avec Arbello, déjà, avec la Prune.
Mais qu'est-ce qui t'arrive, Jean-Michel? T'es carbo complet, Jean-Michel.
T'es contagieux, t'es carbo, je le suis aussi.
Va au chalet, va souffler au chalet.
J'y suis.
Reste-y alors.
Est-ce que c'est un nouveau coup dur pour le foot français, le départ?
C'est un énorme coup dur.
Ouais, c'est un coup dur du gars.
C'est un énorme coup dur. Et puis en plus, on sentait quand même que les abonnements commençaient à stagner avec Ligue 1 Plus. Il cherchait des solutions. Il semblait en avoir trouvé une petite qui pouvait éventuellement relancer les abonnements, mais quand même ça va partir à volo cette histoire.
Bah là, oui, voilà.
Si t'as pas un vrai mec de télé comme l'était quand même de Taverneau, il a cherché des solutions. Alors il a peut-être pas tout réussi. La preuve, il s'est fait piquer les droits pour la Coupe du Monde. Si peut-être il avait rien dit, peut-être qu'il les aurait encore. Ah
oui, exactement.
Mais s'il avait pas ramené publiquement, peut-être que j'en sais rien, ou peut-être que la boule l'aurait balancé quand même malgré tout. J'en sais rien, mais. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour le foot français. Si tu vas mettre qui, c'est un poste hyper délicat. Ouais. C'est terrible. Sincèrement, c'est terrible. Les clubs doivent trembler encore plus qu'ils ne tremblent déjà depuis de longs mois. Ouais. C'est assez catastrophique.
Ouais. Jean-Michel,
Jean-Michel.
Non, ben de toute façon, ils n'avaient pas grand-chose. Désormais, ils n'auront rien. Voilà, c'est tout. On est rendu au point de départ d'il y a un an avec les mêmes. On imagine qu'avec les mêmes, ça va changer. Eh bien, avec les mêmes, ça ne change pas. Les mêmes, c'est les mêmes présidents qui refont le football français. Et à un certain moment, on se rend compte qu'ils sont dans l'impasse. Ils sont dans le mur et ils ils s'en rendent même pas compte. Ça y est. Non, continuez à voter pour la Brune.
Non, mais
continuez.
C'est de toute façon, Ligue 1 Plus, c'était mort-né dans l'œuf, hein, comme dirait
Manu Petit. Ouais, il l'a dit.
Donc, non, mais blague à part, lui, il était venu pour essayer de redonner un peu de crédibilité, en effet, à ses droits. Et c'est pas facile. Et la preuve.
Oui, pour arranger la sauce aussi, Jérôme, avec Canal Plus.
Oui,
aussi,
en plus, c'est pour ça, exactement. Faire. Ouais, ça
il y avait plein de bonnes idées au départ. Je trouve que l'idée était plutôt hyper exactement. Intéressante. Et puis, tu vois, et puis, mois après mois,
c'est
le message envoyé. Vous avez raison. C'est que là, mais si même Nicolas Taverneau, qui faisait du bon boulot, jette l'éponge,
mais quand on te met des bâtons dans les roues à toute initiative, évidemment qu'à un moment donné, tu baisses les bras et tu jettes l'éponge. Évidemment.
Vince, la Brune, on l'entendait plus. Donc là, peut-être qu'on va l'entendre.
Il est le bienvenu pour s'exprimer sur RMC.
Ah, là, oui, maintenant.
Ah non, ne perdez pas votre temps.
Tout le monde est le bienvenu.
Bah, au moins nous expliquer comment il compte organiser.
Qu'est-ce que tu veux
truc.
Qu'il explique son échec.
Allez, dans un instant, l'explication finale, le quiz de Roten sans flamme, tous contre Roten.
Lui me dit, avec moi, c'était pas forcément pire.
Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h50 sur RMC, les 10 dernières minutes de Roten sans flamme. Allez, à peine 10 dernières minutes, c'est le quiz de Louis Gerbier. Un super cadeau à vous faire gagner. Christophe Dugarry, Jean-Michel Larquet sont là pour me faire tomber. Mais je suis un rock. Ça va être difficile.
Rock.
Et à partir de 20h, l'After JO qui sera là avec Christophe Cessieux en direct de Milan.
Pourquoi vous voulez punir les auditeurs?
Ah non. Les Jeux Olympiques, c'est fantastique. AMC Radio officielle. En plus, on a une grande journée pour l'équipe de France. La magnifique médaille d'argent pour Roman Miradoli sur le Super G à Milan Cortina. Jean-Michel Larquet n'a rien raté. Donc il y aura un grand débrief.
Il a le chalet qui donne sur la descente.
Elle est licenciée au club de Samoens. Et si tu veux, Samoens Maglan.
Je sais où c'est Samoens parce que moi j'ai fait des matchs amicaux en pré-saison à Samoens.
C'est très intéressant, mais on va passer au quiz tout de suite. Tous contre Roten.
RMC. Tous contre Roten.
Avec Louis Gerbier. Salut Louis.
Salut l'équipe.
Salut Luigi.
Vont s'affronter ce soir pour une montre Kelton, la montre Villa Silver Noir. Julien et Mathieu, salut à vous deux.
Salut Julien. Salut Mathieu.
Salut à tous.
Ouais, Julien, tu veux réaliser un rêve? T'es supporter parisien, tu veux jouer avec Jérôme?
Allez Julien.
Ah oui.
Allez Julien.
Julien avec Jérôme et Mathieu avec le reste du monde.
On est champion d'Europe.
Ouais. Christophe, Jean-Michel, vous allez bien?
Très bien, vas-y mon poulet. Envoie la sauce.
Et nous, moi je m'en fous, j'ai gagné déjà mardi et il a oublié. C'est vrai. A déjà oublié avec Jérôme Cherki.
Et oui, Jérôme Cherki, très grand joueur.
Alors sorti de son contexte, c'est un peu bizarre, mais allez réécouter le quiz.
Voilà. Ou écoutez celui-là, vous allez comprendre.
C'est bizarre, oui.
On lui en veut pas, il fait pas une grande émission. Ce soir,
il n'y a pas de match en France, mais il y a la Copa del Rey, la demi-finale. Atlético Barça. Pas mal. Donc le thème, c'est des joueurs passés par la Ligue 1 qui ont joué à l'Atlético ou au Barça.
Ah, bravo, allons-y.
Voilà. On commence avec une question flash. Quel ancien Nancéen a joué dans les deux clubs Atlético, Barça?
Dutruel.
Alors, il a peut-être joué à Nancy, j'en sais rien, mais c'est pas lui que je cherche. Je cherche un défenseur.
Curbelo? Non, pas Curbelo.
Non.
Et c'est récent ou pas?
Ouais.
Je sais pas. Défenseur récent.
L'anglais.
Bravo.
Oui,
bravo du gars.
Oui, l'anglais. Exact.
1-0 pour le reste du monde.
Chers auditeurs,
Mathieu et Julien.
Mathieu, Julien, quel international français joue actuellement à Barcelone?
Koundé.
Bravo.
Qui a dit Koundé?
Julien,
un partout. Entre
Jules Koundé. Question Cristobal.
Estoy muy, muy feliz et orgulloso de hablar contigo, vraiment.
La pregunta Cristobal.
Contigo, vraiment.
La pregunta Cristobal.
Avec contigo, vraiment.
Allez, contigo, vraiment. Donc vous devez répondre avec l'accent espagnol de Christophe.
Contigo, vraiment.
Tout le monde est content. C'est senor.
Quel joueur passé par Barcelone et l'OM joue actuellement à Séville?
Fekir? Non.
Avec l'accent, hein, ou?
Ah oui, l'accent, attention.
Ah si, qui joue à Séville?
Barcelone et l'OM
qui joue à Séville.
Contido, vraiment. Alexis Sanchez.
Oui! Alexis Sanchez.
Ah ouais, c'est vrai, il a marqué deux buts en plus.
Question Larquet.
26-15, code de Kinovel pour les jeunes Kinovel.
Gerbier, t'es un truand.
Attention les amis, ça peut aller très vite. Quel joueur des années 90-2000 a joué à Barcelone après Milan et avant Marseille?
Dugarry.
Simultané.
C'est Dugarry. Simultané.
Bravo.
2-1 toujours pour Jérôme contre le reste du monde.
Question Costil.
Oh oui, Greg, il la sort. Oh oui, m'a opposé Richard.
Il est de retour.
Oh, ça suffit.
Quel gardien international a été transféré de l'Atlético au PSG?
Ah bah facile.
Rico?
Ah bah facile.
L'Atlético.
Ah, il a bossé à RMC.
Qu'est-ce qu'on raconte? Ah, puis il était dans le jingle aussi, accessoirement.
Bah, il a bossé à RMC,
Mais non. De l'Atlético.
Oui, au PSG.
Coupé.
Oui, Grégory Coupé. Bravo.
On l'embrasse. Greg.
Greg Coupé,
on va être à Paris.
Et le pauvre, il arrive à Paris et puis contre Auxerre, il se fait le tibia là,
le tibia sur la bâche.
Le pauvre.
Je l'avais vu en direct.
On l'embrasse, Greg.
Ouais, on l'embrasse.
On l'embrasse à Greg. On est sur RMC, les amis. S'il vous plaît, un peu de respect. Question pour le patron.
Salut, c'est Jérôme Rotten.
RMC. La question pour le patron.
Avoir coupé. En 2004, quel joueur est prêté par Barcelone à Monaco pour faire oublier le départ du génie technique JR25?
Julie.
Non. De Barcelone à Monaco.
Ah, l'année 4. D'après alors.
Ouais. Il joue pas ensemble.
Il était naze.
Alors on peut
pas Saviola, ça va pas, non?
À Monaco.
Son passage à Monaco, c'est pas le pic de sa carrière.
C'est loin d'être le pic. Franchement, il était plus au sas qu'au pic.
Ah, d'accord. 3-2 pour Jérôme. C'est Jérôme qui a eu bon.
Ah oui.
Non.
C'est pas du tout Jérôme.
C'est moi.
Ah, c'est du gars, pardon. Toi, tu n'allais pas me dire la vérité.
Mais je l'ai dit aussi, non?
Non, il a dit avant.
Allez, sur le tirage.
Oui, t'as dit qu'il était nul, mais il a pas dit.
T'as dit qu'il était naze.
Ouais.
Quel ancien de la Ligue 1 passé par Barcelone avait déclaré qu'il voulait qu'on laisse fumer ses clopes en paix?
Payet. Barthez.
Non. Plus récent.
Ah ouais?
Ouais.
Répétez la question.
Il avait été surpris une fois en train de fumer. Il a dit ouais, moi je fume quand je veux et je fume pas tous les jours. Me saoulez pas avec ça. Je fume quand je veux. Plutôt à l'arrière du terrain. Il est français. Français. Ouais.
Il a joué où? À Barcelone.
Et ce qu'il a joué.
Ah, je vois qui c'est.
Je voudrais pas dire de bêtises. Je l'ai plus là.
Non, gaucher.
Oui.
Ouais. Grand.
Valence aussi.
Ouais.
Il a joué.
Ouais.
Rami?
Non. Rouquin?
À la porte?
Mathieu?
Oui, Jérémy
Mathieu.
3-3. Allez, 3 partout.
Question con.
RMC.
Qu'est-ce que vous êtes con? Mais qu'est-ce que vous êtes con alors?
La question con.
L'embrasse Eric, ce sera là lundi.
Ouais. Quel ancien. Attention, allez gratiner encore. Quel ancien de la Ligue 1 parti à Barcelone? Est un mixte entre la mascotte de McDonald's et le plus grand cycliste français de l'histoire. À demain.
Le plus grand cycliste.
La mascotte,
un mixte entre quoi?
Pino. La mascotte de McDonald's.
Pino. Ah oui.
Et le plus grand
Ronaldinho.
Ronaldinho.
Crac. Ça fait 4-3 pour le reste du monde.
Non, 4-3.
Non, 4-3.
J'ai compté.
4-3.
Ça y est, c'est fini.
La bonne réponse vaut 3 points.
Combien?
3 points.
Bon, balle de match alors. Allez, restez concentrés, c'est important, c'est un magnifique cadeau. Pour Julien ou Mathieu.
Il y a centré. Vas-y, allez.
Excellent. On fait une question du Meco pour vous départager.
Bravo, messieurs. Vous êtes des hommes, des grands hommes d'Europe.
Et on n'insulte pas, on ne menace pas la régie, s'il vous plaît, monsieur.
J'ai rien dit.
Allez.
Si tu donnais toute cette énergie à répondre aux questions.
J'ai rien dit, sauf qu'il triche. Il donne à Jean-Michel à chaque fois.
Allez. Ah, moi, j'avais pas donné une question. Qu'est-ce que je triche? Une réponse.
Allez. On cherche un joueur, un joueur assez grand de taille. On cherche un ancien coéquipier de Christophe. Mais attention,
c'est pas un avantage pour Christophe.
C'est pas du tout un avantage. Ils ont très très peu joué ensemble.
Il a échoué à Barcelone.
RC Lens, Barcelone, PSG, Marseille, Levante.
Et magnifique.
T'en gagnes pas une, Jérôme.
Et c'est Mathieu qui remporte le magnifique
Jérôme,
cadeau.
Jérôme, tout rouge.
Bravo Mathieu.
Tous contre Rotten sur RMC avec Kelton, la marque icône pop de l'horlogerie française. Faites-vous plaisir sur kelton.fr.
Une pensée pour Julien qui a réalisé son rêve. Il a joué avec Jérôme, mais il n'a pas gagné la montre.
Ouais, c'est une pensée pour Jérôme qui a une seule victoire cette semaine.
Ah, Jérôme,
ça te fait rire.
Ah non, ça me fait pas rire. Moi,
merci.
Moi, je souffre à chaque fois.
Merci ouais. Louis Gerbier, merci Christophe Dugarry, merci à Jean-Michel Larquet. Dans un instant, l'after JO pour revenir sur tout ce qui s'est passé. La belle médaille d'argent.
On pense à vous. Restez bien à l'écoute des RMC quand même. On pense à vous et on embrasse.
Christophe Cessieux sera.
Ah ouais, non, mais Christophe, oui. Écoutez RMC pour Christophe Cessieux.
Et demain, grand.
Et demain, écoutez Roten sans flamme pour Jérôme Roten, pour Benoît Boutron et pour les consultants Benoît Costil, Younes Belhanda demain seront là avec moi pendant une heure et après intégralité Paris Saint-Germain, du moins Rennes Paris Saint-Germain, gros match demain de Ligue 1 au commentaire avec Benoît. On va se régaler demain 18h dans Roten sans flamme. Bonne soirée, à demain.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.